Nous recevons donc aujourd'hui le professeur Jean-Pierre Biebring, qui a une thèse d'état en sciences physiques en 1978 et qui travaille sur des missions à la fois martiennes et des missions cométaires. Donc sur deux missions martiennes, une qui partira en 2007 en coopération avec la NASA et une autre qui partira en 2003 qui s'intitule Mars Express. Il travaille aussi sur des missions cométaires, en particulier la mission Rosetta, qui partira en 2003. Il est actuellement professeur de physique à l'Université de Paris Sud, Centre scientifique d'Orsay, et il est astrophysicien à l'Institut d'astrophysique spatiale, IAS, d'Orsay. Ses spécialités sont l'astrophysique et l'origine et l'évolution du système solaire. Je vous remercie et je lui laisse donc la parole.
Merci beaucoup. Je veux bien sûr commencer par féliciter cette extraordinaire initiative, l'UTLS, je trouve, mais surtout ces gens d'avoir eu la gentillesse de me proposer d'y participer. Puis ce que je voudrais surtout, c'est vous remercier d'être venu, d'avoir eu l'amabilité un dimanche pluvieux du mois de juillet, de venir malgré tout. Et comme c'est la dernière du cycle court sur les sphères planétaires, ce que je vais un petit peu brosser, c'est des choses qui ont à la naissance et à la mort des planètes. Et comme on m'a demandé de parler spécifiquement quelque chose dont vous n'avez pas encore entendu parler ici, à savoir astéroïdes et comètes, une assez grande partie sera là-dessus. Alors en guise d'introduction, je vais commencer par quelques diapositives qui vont montrer un peu le cadre dans lequel je veux situer ce dont je vais parler. Je vais essayer de montrer les premières diapositives. Et ces quelques premières diapositives que l'essentiel d'entre vous connaissent ici sont deux en fait par objet, qui sont les objets les plus proches de notre environnement. En venant du Soleil, cette photo est la première et dernière en fait photo mosaïque prise de la planète Mercure. Comme vous le savez, on n'a pas été très souvent là-dedans. Une seule sonde en fait y a été. Et Mercure, par cette sonde-là, ça fait maintenant une trentaine d'années, a été photographié avec une résolution qui est relativement bonne. Et d'un coup, d'un objet qui n'était jamais qu'un point sur une plate photographique ou un point à l'œil nu, on a des véritables cartes d'état-major. Et vous voyez que Mercure, quand on l'observe, est essentiellement une surface criblée de cratères, sans rien d'autre. Et vous noterez qu'il n'y a évidemment pas de nuages, à vrai dire, il n'y a pas d'atmosphère à la surface de Mercure. Si on s'éloigne un petit peu du Soleil, on arrive à Vénus. Et Vénus, au télescope, c'est ça. C'est une enveloppe qui, là, pour le coup, est totalement gazeuse, en sens où on est incapable de voir à travers cette enveloppe. Vénus est entièrement, à 100%, recouvert de nuages, et même de nuages très denses, qui empêchent de voir la surface. Cette atmosphère a été beaucoup étudiée, elle tourne à vive allure, je ne vais pas vous en parler, mais la chose importante que je veux noter ici, c'est cette caractéristique majeure d'avoir une atmosphère dense, qui recouvre entièrement la planète. Pour la sonder, il faut passer un domaine de longueur d'onde qui n'est pas le domaine auquel l'œil est sensible, le domaine radar. Une seule sonde a vraiment fait ça d'une manière globale, c'est la sonde Magellan de la NASA. Et elle nous a sorti ce que pourrait être une image de Vénus si on oubliait qu'il y ait une atmosphère. Et quelques photos rapprochées que je suis sûr Philippe Masson vous a présentées en détail hier montrent qu'effectivement il y a beaucoup de reliefs. Et la chose importante, c'est que non seulement il y a des reliefs, mais ces reliefs sont tous d'origine volcanique. Il y a des milliers, peut-être des millions de volcans à la surface de Vénus, dont hélas on ne sait toujours pas s'ils sont éteints ou pas. Il n'est pas exclu qu'il y ait encore du volcanisme actif, encore que très vraisemblablement c'est une planète qui, au niveau de son volcanisme, est également une planète morte. Quand on s'éloigne du Soleil, on arrive bien sûr au niveau de l'orbite de la Terre, et juste à côté de la Terre, on a la Lune, qui est aussi un objet en fait de type totalement planétaire, de même dimension. Et je le présente, mais il y a peu besoin d'en discuter parce que de loin c'est l'objet, parce qu'il est le plus proche, le mieux connu. C'est un objet qui essentiellement aussi est caractérisé par deux types de terrains, sombre et clair, et aussi caractérisé l'un comme l'autre par le fait qu'ils sont cratérisés au maximum. C'est une densité de cratères qu'on ne trouve nulle part ailleurs, si ce n'est sur Mercure. Et on sait expliquer cela, je reviendrai un petit peu là-dessus. Si on s'éloigne, on arrive, ça c'est une photo rapprochée des cratères de la Lune, on arrive à Mars, qui est un autre objet extrêmement intéressant, dans le sens où Mars est encore différent de tous les autres. Mars, qu'on est en train de découvrir aujourd'hui avec force détail, est une planète qui montre énormément de reliefs tout à fait différents. On a sur le sud de la planète une zone extraordinairement cratérisée, un petit peu à l'instar de ce qu'on a vu sur la Lune et sur Mercure. Dans le nord, au contraire, on a très peu de cratères et on trouve des volcans, on trouve des vallées asséchées. Vous en avez quelques exemples. Ici, non pas de volcans et de de lits de rivières, mais au contraire, ça c'est les sites pris depuis les sondes qui se sont posées, les sondes vikings. Vous voyez que c'est un désert sans à peu près de relief. La chose intéressante, c'est que quand on fait une photo l'hiver du même terrain, ce que les sondes vikings ont pu faire, on s'aperçoit qu'entre les cailloux, il y a du givre qui se pose. Il y a effectivement de la neige qui peut apparaître, dont on ne pouvait pas encore savoir, et on ne sait d'ailleurs pas vraiment si c'est de la neige d'eau ou de la neige organique, essentiellement de gaz carbonique, et il semble que ce soit cela. Il y a donc des saisons sur Mars, et mieux que cela, on a vu depuis maintenant plus de 20 ans qu'il existe à la surface de Mars des grands réseaux fluviatiles comme ceci, qui sont bien sûr aujourd'hui complètement asséchés, et les photos récentes qui ont été montrées ne montrent pas quelque chose de différent. Il y a à la surface de Mars des ravins qui, quand on essaie de les expliquer, ne s'expliquent pas mieux que comme témoignant du fait que dans le passé, et on ne sait pas si c'est un passé lointain ou pas, mais ça se mesure en millions, en tout cas ici en centaines de millions d'années, de l'eau aurait pu couler à la surface de Mars. Si je veux parler de cela, ce n'est pas aujourd'hui pour vous parler non, essentiellement de ces affaires d'eau sur Mars, parce que je suis convaincu qu'hier et avant-hier, beaucoup a été dit là-dessus. On pourra revenir dans les questions si ça vous intéresse. Ce que je veux surtout dire de cela, c'est, en revenant à la photo suivante qui est un petit peu plus proche, et la photo de la Terre, c'est que quand on regarde l'ensemble de ces objets-là, ce qui frappe, et ça frappe d'une manière tout à fait spécifique par rapport à la connaissance qu'on avait du système il y a encore 30 ou 40 ans, c'est l'extraordinaire diversité de ces mondes. Voilà 5 objets que je vous ai présentés, j'aurais pu vous en prendre, bien sûr en présenter beaucoup d'autres, qui sont clés dans l'histoire du système solaire, qui tous sont formés au même moment, on le sait maintenant, tous sont formés il y a à peu près 4,6 milliards d'années, au même point de l'univers, au même point de notre galaxie, donc unité de lieu, d'un même matériau, parce qu'à très peu de choses près, en fait, tous ces objets-là ont la même composition. Et voilà, 4,6 milliards d'années plus tard, qu'ils se trouvent dans des états d'une incroyable diversité. Et c'est ça qui, je crois, domine actuellement, en tout cas dans la planétologie, si ce n'est dans l'astrophysique contemporaine, d'essayer de comprendre comment des objets comme ça ont pu évoluer si différemment, avec bien sûr le fait qu'au cœur de tout cela, quand on essaye non pas de classer les objets parce qu'ils ont de commun, mais au contraire de mettre en évidence leurs spécificités, peut-être la plus grande des spécificités, eh bien c'est qu'on est là aujourd'hui pour en parler, c'est qu'il y a un objet, celui-ci, la Terre, qui a été capable non seulement d'abriter les conditions propices à l'apparition du vivant, mais de les avoir préservées jusqu'à aujourd'hui. Et une des grandes, je dirais, motivations de la recherche astrophysique et surtout de la planétologie consiste justement à essayer de comprendre l'origine de ces spécificités. Qu'est-ce qui fait qu'en particulier sur Terre, il ait pu y avoir ce développement vers tant de complexité, et je crois qu'il n'est pas faux de dire, et pour ceux qui ont assisté à l'ensemble des conférences sur l'astrophysique et celles qui vont suivre, vous verrez que, autant même pour les étoiles, finalement, comprendre le mécanisme d'évolution d'une planète n'est pas si compliqué que ça. On est très loin de comprendre ce qui fait l'évolution des planètes. Qu'est-ce qui fait que les planètes, au cours du temps, ont pu arriver dans cet état de si grande complexité? On ne le sait pas. Et ce qui frappe, c'est de voir que peut-être des objets que l'on connaît, la Terre, au milieu de l'ensemble des objets de l'univers, est le plus complexe d'entre eux. Et peut-être que l'homme et son cerveau sont parmi les plus complexes, si ce n'est les plus complexes des systèmes jamais construits. Et ce qui est remarquable dans cette astrophysique, c'est qu'elle nous donne aujourd'hui une perspective historique de l'ensemble de l'évolution qui place en particulier l'homme au cœur de cette, pas au cœur, mais parmi cette évolution en plongeant toute son histoire dans celle de l'univers. C'est vrai que l'astrophysique contemporaine a été, et quand je dis contemporaine, je dirais des 30-50 dernières années, a été cette discipline forte qui a été capable de dire, oui, l'homme a une histoire, mais l'histoire de l'homme, c'est réellement celle de l'univers. Il a fallu 15 milliards d'années de patiente construction pour en arriver là, quelque part. Et ce qui est tout à fait remarquable, c'est qu'au même moment où on s'est donné les outils qui nous permettent de comprendre cette évolution qui aboutit quelque part à ce que nous sommes aujourd'hui, au même moment, l'homme s'est, comme vous le savez, doté des moyens qui sont capables de modifier à ce point les conditions de son environnement, qu'il peut, à l'échelle maintenant non plus de milliards ou de millions d'années, mais de décennies, modifier les conditions de son environnement au point de, et c'est probablement la première fois que ça se passe dans l'histoire de l'univers, une espèce est capable de modifier le propre cours de son évolution jusqu'éventuellement à le détruire. Ce qui veut dire que l'astrophysique aujourd'hui n'est plus, si jamais elle l'a toujours été d'ailleurs, une science de pure contemplation. L'astrophysique joue un rôle, je dirais, dans l'urgence qu'il y a à essayer de comprendre ce qui fait les spécificités du monde de la Terre, les spécificités qui permettent à la vie d'avoir été dans son état de développement jusqu'à aujourd'hui, avec cette nécessité de le comprendre pour en particulier éviter les catastrophes qui peuvent se préparer du fait même de l'activité de l'homme. Donc on est vraiment à une croisée des chemins et je crois que c'est important de comprendre, et c'est ça dont je vais vous parler un petit peu aujourd'hui, le rôle spécifique de l'astrophysique dans ce débat. L'astrophysique n'est plus qu'une science de pure contemplation au sens de curiosité, qui en soi déjà est remarquable, il y a en plus participation de l'astrophysique à ce débat d'urgence par rapport aux grandes questions qui se posent de l'évolution de notre propre planète. Et juste un point pour vous expliciter cela. Sur cette photo, il y a quelque chose, enfin, il y a énormément de choses qui sont remarquables, bien sûr, mais il y en a une qui doit vous frapper, c'est que cette photo montre que la Terre est recouverte de nuages, et les nuages sont bien sûr, comme vous le savez, repérables au fait qu'ils sont blancs. Pourquoi ils sont blancs? Parce que cette photo, et aussi, il faut bien le remarquer, que cette photo-là a été prise, pour la première fois qu'on était capable de prendre une photo de la Terre, il fallait s'éloigner de la Terre. C'était fait par les premières fois que des gens quittaient suffisamment la Terre pour prendre ce genre de photo, c'était les premiers astronautes des missions Apollo, Apollo 8 en l'occurrence. La première fois, ils voyaient projeter devant eux la boule qui était la Terre. Vous vous souvenez qu'à l'époque, il fallait démontrer que la Terre était ronde. Aujourd'hui, on ne démontre pas que la Terre est ronde. Tout le monde le sait parce qu'on l'a vu. Il n'y a pas si longtemps que ça, on ne le savait pas. Pourquoi ces nuages apparaissent blancs? Parce que vu l'extérieur, ils renvoient vers vous la lumière, ce qui veut dire que les nuages ont cette capacité à empêcher une grande partie, plus de la moitié de la lumière qui arrive de l'extérieur, d'arriver jusqu'au sol. Ce qui veut dire que l'équilibre thermique de la planète dépend évidemment de la couverture en nuages. Alors, quand vous regardez les objets que je vous ai présentés au début, vous voyez que les objets qui nous entourent sont soit entièrement dépourvus de nuages, pour la plupart, soit entièrement recouverts de nuages, le cas de Vénus. La Terre, c'est du 50-50 à peu près. Alors c'est étonnant parce qu'aujourd'hui il pleut, on a l'impression que c'est couvert, il y a quelques jours il faisait beau, on a l'impression que ça va, ça vient. En fait, c'est extraordinairement stable, et probablement, globalement bien sûr, et probablement sur de longues échelles. Cette spécificité-là est tout à fait majeure, parce que vous voyez bien qu'une petite variation de la couverture en nuages, ça change énormément la quantité de rayonnement qu'on va avoir au sol, et donc finalement le bilan thermique global qui va gérer une grande partie de la biosphère. Eh bien, voilà parmi les spécificités de la Terre dont il est critique de les comprendre parce que c'est peut-être là que se joue la régulation des climats dont vous savez, l'enjeu est très fort pour les présents. Donc, voilà ce que les tâches qui sont devant nous, essayer de comprendre ceci et pour les comprendre, comme pour tout système en évolution, il y a deux manières d'avoir accès, mais deux manières complémentaires d'y avoir accès. Vous savez, quand vous avez quelque chose qui bouge, ça peut être un ballon de football, une fois que le ballon est parti, du pied de Trezeguet, la question de savoir s'il va rentrer dans les buts, taper sur la barre ou sortir hors du but, ça dépend de deux choses. D'une part, bien sûr, les forces qui agissent dessus. Et les forces, il n'y en a qu'une, c'est la pesanteur terrestre, c'est l'attraction du ballon sur la Terre et de la Terre sur le ballon. Et ça, quelle que soit la trajectoire, ça sera bien sûr la même force. Donc il faut connaître les forces parce que cette trajectoire parabolique dépend du fait que la Terre est là. S'il n'y avait pas la Terre, bien sûr, ça irait tout droit. Mais on le sait bien, ça ne suffit pas à comprendre la trajectoire. La trajectoire dépend aussi de la manière dont le ballon a été envoyé, de ce qu'on appelle les conditions initiales. Et ces deux paquets de choses, à savoir les lois du mouvement et les conditions initiales, sont toujours ce qui va drainer toute évolution. Et c'est vrai pour le ballon de football, c'est vrai pour la Terre dans son ensemble, pour les planètes dans son ensemble. Si vous voulez savoir l'évolution d'un corps, il faut connaître les moteurs de l'évolution, les forces qui sont là et les conditions initiales. Je ne vais bien sûr pas aujourd'hui brosser l'ensemble, mais il faut que vous sachiez qu'au niveau de ce que sont les forces, c'est-à-dire ce qui fait les moteurs de l'évolution, c'est là qu'il y a la plus grande difficulté parce que toutes les forces qui existent dans la nature, les quatre forces fondamentales que l'on dit, agissent dans le cas des planètes, ce qui n'est pas le cas des autres objets. Quand vous regardez l'univers à grande échelle, c'est surtout de la gravité, si vous regardez les étoiles, c'est surtout la force nucléaire. Dans le cas de la Terre, toutes les forces sont en présence avec des constantes d'évolution différentes et c'est ça qui fait, un, que c'est compliqué et deux, que toute planète, au cours de son temps, va évoluer, c'est-à-dire va partir d'un certain état, va passer à un état de plus grande énergie interne, ça va chauffer pour l'essentiel, et puis ça va mourir au cours du temps. Quelles sont les lois qui nous permettent de comprendre ça? Eh bien, il faut déjà savoir quel est le moteur principal de l'évolution. Et juste d'un mot, dans les planètes que je viens de citer, y compris la Terre, le moteur principal, c'est la radioactivité, comme on le sait en général, mais en général seulement, ce n'est pas encore assez dit, je dirais, dans les petites classes. Ce qui fait que notre planète est active, ce n'est pas le fait qu'elle est irradiée par le Soleil. Bien sûr que le Soleil nous envoie beaucoup d'énergie, mais l'énergie solaire, on le comprend bien, est bloquée juste au niveau du sol. Il n'y a rien qui pénètre à l'intérieur. Ce qui fait que notre planète est une planète active, avec du volcanisme, des tremblements de terre, quelque chose qui permet justement, entre autres, à recycler l'atmosphère par le volcanisme, c'est qu'il y a de l'énergie piégée à l'intérieur, qui en permanence est en train de sortir. Cette énergie, majoritairement, c'est la désintégration radioactive de l'uranium, du thorium et du potassium. S'il n'y avait pas ces éléments-là, la planète Terre serait une planète morte. Et en fait, quand vous prenez un mètre cube de Terre, un mètre cube de Lune, un mètre cube de Mars, un mètre cube d'astéroïdes, vous avez la même composition, comme je vous disais, à peu de choses près, à mieux d'un facteur 2, ce qui veut dire que tous ces mètres cubes-là, ils sont le même réservoir énergétique. Ce qui va faire donc le réservoir global, eh bien, c'est le volume. Plus vous avez de mètres cubes, plus vous serez chaud, pour l'essentiel. Et quand vous regardez les objets que je vous ai présentés, de la Lune à la Terre, vous êtes dans des objets de taille croissante. Et c'est parce que ces objets sont de taille croissante que finalement, et c'est un des premiers paramètres que dont on a pris conscience qu'il est majeur, c'est la taille. Plus votre objet sera grand, plus le réservoir énergétique sera grand et plus votre énergie interne aura permis à votre corps de se chauffer à un nouveau niveau. Mais comme la source d'énergie, c'est la désintégration radioactive, c'est des éléments qui se transforment dans d'autres, l'uranium qui se transforme en plomb, c'est ça qui fait que notre Terre est chaude, eh bien, au cours du temps, à force de dégager de l'énergie, bien sûr, la concentration décroît. Et donc, forcément, l'énergie d'une planète ne peut que dépérir au cours du temps. Et ce qui est aussi important à comprendre, c'est qu'il faut un certain temps pour que la planète soit arrivée à un certain niveau d'énergie interne. Ce niveau d'énergie dépend de la taille, donc plus votre objet était grand, plus il aura atteint un niveau élevé, et puis ensuite, ça ne peut que décroître au cours du temps. Eh bien, si votre objet est relativement petit, il va décroître suffisamment vite pour qu'en surface, il soit trop froid, il va geler, figer en surface, il n'y aura plus d'activité. C'est ce qui s'est passé pour la Lune il y a plus de 3 milliards d'années. Et puis, si vous avez un objet un peu plus grand, comme Mars, ça s'est passé plus tard, typiquement il y a 1 milliard d'années. Et la Terre, eh bien, on est encore au-dessus, c'est-à-dire qu'on est encore une planète active. Mais la Terre va décroître, est en train de décroître, et un jour, la Terre va figer aussi. Et le jour où elle se figera comme ça, en surface, ça sera une planète morte, et il n'y aura plus de quoi recycler, décidément, notre atmosphère. Et la vie en particulier, si elle n'avait pas disparu avant, elle disparaîtra à ce moment-là. Si bien que c'est aussi une idée que je répète souvent, bien sûr, mais je ne suis pas le seul, il faut bien réaliser que ce n'est pas le soleil qui va nous empêcher de continuer notre vie sur Terre. Il y a toutes les raisons de penser que la vie sur Terre s'arrêtera en plein soleil parce que, simplement parce que nos réserves d'énergie interne vont s'amenuiser, la planète va se figer. Eh bien, c'est ça typiquement, c'est une des grandes leçons que l'on a de l'exploration des dernières années, de comprendre que cette évolution comparée des planètes, elle suit au moins une loi qui suit la taille des planètes. Plus ils sont petits, les objets, plus ils seront restés froids, plus ils seront gros, plus ils auront été chauds, plus ils seront montés à un haut niveau d'activité avant de décroître. Alors, une des choses que nous disent les objets les plus petits, par exemple, la Lune, Mercure, c'est que comme ils se sont figés il y a longtemps, ils sont restés dans l'état où ils étaient à l'époque. Et à l'époque, je vous ai dit, ça fait plus de 3 milliards d'années. Et c'est vrai que c'est un des résultats importants que toutes les missions Apollo, toute l'exploration de la Lune nous a dites, c'est que tous les cratères que vous voyez là, ce sont des cratères qui sont fabriqués au tout début de l'histoire du système solaire, en fait dans les premières centaines de millions d'années. Et ça nous dit quelque chose de très important. C'est que lorsque le système solaire s'est formé, il n'a pas formé que 9 planètes et quelques objets qui sont devenus des satellites. Ce n'est pas des dizaines, c'est des milliers, des millions d'objets qui ont été formés au début, par accrétion de tout un tas de petits grains. Si on a le temps, on reviendra là-dessus, mais ce n'est pas ça qui est important dans ce que je veux dire maintenant. Il y a des quantités d'objets qui sont formés, et ces quantités d'objets, ils étaient sur des orbites un petit peu chaotiques, un peu aléatoires dans le système solaire. Et il a fallu des centaines de millions d'années pour que tous ces objets disparaissent, et ils ont disparu essentiellement en se fracassant les uns sur les autres. Et quand vous regardez les objets pleins de cratères d'impact, comme la Lune, comme Mercure, comme la partie sud, l'hémisphère sud de Mars, comme plein d'autres objets dans le système solaire, les plus petits, ceux qui sont morts depuis longtemps, eh bien ce que vous voyez essentiellement, ces cratères d'impact, ce sont les stigmates de ce qui s'est passé dans le système solaire tout au début de son histoire, dans les, encore une fois, les premières centaines de millions d'années. Si bien, et je vous montrerai tout à l'heure un dessin, plus qu'une photo bien sûr, qui est ce qu'aurait pu être une image de la Terre, si on avait pris son image il y a 4 milliards d'années, eh bien la Terre, il y a un peu plus de 4 milliards d'années, ressemblait à ce qu'est encore aujourd'hui la Lune, c'est-à-dire un objet bourré de cratères d'impact. C'était ça la Terre à l'époque, comme tous les objets du système solaire. Et on peut même calculer combien il y a eu de gros impacts sur Terre, typiquement une cinquantaine d'objets de gros impacts qui faisaient plusieurs milliers de kilomètres de diamètre. Alors bien sûr, à cause de la géologie terrestre, on en a perdu la mémoire, mais ça a eu énormément d'importance pour la suite des événements. Il y a juste un effet dont je vais vous parler ici, sur lequel je reviendrai un petit peu après, c'est que l'un de ces impacts a eu une importance majeure, c'est qu'il était à l'origine de la Lune, précisément, dont je viens de parler. On commence juste à comprendre comment la Lune a pu se former. Je dis juste parce que tous les modèles qui ont été créés depuis des siècles, en fait, se sont avérés faux, y compris ceux qui étaient les modèles sur lesquels on jouait au moment des missions Apollo. Aucun des modèles initiaux n'a pu rendre compte de l'ensemble des observations, des mesures qu'on a pu faire sur les échantillons lunaires, en particulier quand ils sont revenus ici. On sait à peu près avec certitude, encore que c'est très compliqué, la manière dont la Lune s'est fabriquée. D'un mot simplement, pour vous compreniez à quel point c'est un phénomène extraordinairement peu probable, la Lune procède d'une collision qui est arrivée, une de ces collisions dont je vous ai parlé, mais d'une collision tout à fait particulière qui s'est passée au début de son histoire, à peu près une centaine de millions d'années, peut-être moins, après que la Terre se soit accrétée. Il a fallu qu'un bolide de très grande dimension, typiquement la planète Mars, vous voyez, un truc qui fait plusieurs milliers de kilomètres de diamètre, rentre dans la Terre violemment. Mais il fallait que l'angle sous lequel il attaque la Terre soit très spécifique, parce que si l'angle était trop frontal, aussi bien cet objet, c'est pas très grave, mais la Terre elle-même aurait été entièrement fracturée, on ne serait plus là. S'il avait été trop tangentiel, tous les débris seraient partis et on n'aurait jamais eu la possibilité d'avoir une trace après sous la forme de la Lune. La Lune procède du fait que l'attaque, l'incidence était suffisamment normale, mais pas trop, suffisamment tangentielle, mais pas trop, pour que les débris soient, une grande partie des débris soient éjectés en orbite autour de la Terre. Et en orbite autour de la Terre, vous avez réaccrété un objet qui s'est avéré être la Lune. C'est, vous voyez bien, hein, quelque chose d'extraordinairement peu probable. Quelque chose, si vous faites faire en première année de DUG, ce qui est assez simple, vous donnez à vos étudiants tous les paramètres qu'il faut, vous leur demandez la probabilité de fabriquer la Lune, et ils trouvent zéro, parce que c'est impossible de fabriquer quand vous voyez l'ensemble de la distribution possible des objets qui vous tombent dessus. Bon, ben en tout cas, c'est arrivé au moins une fois, puisqu'on est là. Et si je le dis, c'est que c'est extrêmement important, puisqu'on est à peu près convaincu maintenant que la Lune, qui est encore une fois, l'important, ce n'est pas qu'il y ait un satellite autour de la Terre, c'est que ce satellite, la Lune, soit de taille presque semblable à la Terre, c'est pratiquement un système double. Eh bien, ce système double a eu une importance majeure sur la suite des événements, si je puis dire, puisque c'est la Lune qui a stabilisé à ce point l'axe de rotation de la Terre pour que le climat soit relativement pérenne. Et on est convaincu maintenant que c'était un des arguments majeurs pour que, dans un climat pérenne, l'évolution chimique puisse arriver jusqu'à la biologie. Et si vous mettez ça comme un des ingrédients pour que la vie apparaisse, vous apercevez que la probabilité que ça se fasse ailleurs devient faible, simplement parce qu'il n'y a pas beaucoup de chances qu'un système Terre-Lune se forme ailleurs. Donc, tout ça pour vous dire qu'en travaillant sur les objets qui ont la signature du premier milliard d'années, on apprend beaucoup de choses sur notre propre système, sur la Terre elle-même. Et c'est là-dedans qu'on essaye de trouver à nouveau l'origine des spécificités de certaines dont je vous parlais, en particulier le passage à la vie. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire là-dessus, je n'ai pas trop de temps, donc vous voyez que pour ce qui est des moteurs de l'évolution, on a une assez bonne vision de ce qui domine la radioactivité. On sait les différentes étapes et je terminerai juste cette partie-là en disant que si on veut comprendre réellement toutes ces étapes, avec la difficulté que sur Terre, à cause de la géologie, il y a une remise à zéro en permanente qui nous efface les traces antérieures. Je vous ai dit par exemple qu'il y a des gros bassins d'impact qui étaient là, mais on n'en a plus la trace. On aimerait d'ailleurs le savoir parce que probablement c'est dans ces coins-là qu'on trouverait actuellement les réserves métalliques les plus grandes. Bon, ça a été masqué par la géologie, c'est très compliqué la géologie. Il y a un objet tout à fait particulier pour essayer de nous visualiser toutes ces étapes, c'est la planète Mars. Mars est un objet, vous voyez, plus grand que la Lune, donc a été jusqu'à un haut niveau d'activité, mais suffisamment malgré tout petit pour que, d'une part, il soit mort aujourd'hui. Il a eu le temps de passer en dessous de l'âge fatidique ou de la taille fatidique pour qu'elle fige. Donc, en fait, Mars est passé par toutes ces étapes-là, mais comme il est monté relativement haut, il a vécu une phase de très grande activité interne. On le voit parce qu'il y a eu des volcans, on pense qu'il y a eu de l'eau liquide, on pense qu'il y a eu des écoulements. Et parce que c'est un objet de taille suffisamment faible, il n'a pas eu de remise à zéro, si bien qu'aujourd'hui, on peut voir des traces de toutes ces étapes-là. Il y a, comme je vous ai dit, dans l'hémisphère sud, on voit le premier milliard d'années avec ses cratères, mais on voit aussi les phases de grande activité. On sait que potentiellement, on peut lire l'ensemble de l'histoire du système solaire, et c'est ça qui justifie actuellement cette énorme activité de l'exploration spatiale en direction de la planète Mars, parce que le jour où on aura la capacité de tout sonder sur cette planète, c'est-à-dire à la fois la cartographier, aller se poser dessus, ramener des échantillons, ce qu'on essaye de faire dans cette décennie, et entre autres la France devrait jouer un rôle majeur là-dessus, alors on pense que ça va nous faire faire un bond considérable dans la compréhension, non seulement du système solaire, mais je dirais plus spécifiquement de notre propre planète, la Terre. Donc vous voyez que sur ce pan-là, qui est, je dirais, une bonne moitié de ce que font les astrophysiciens qui s'intéressent à la planétologie, d'essayer de comprendre tout ce qui fait l'évolution des objets, la planétologie comparée, comme on dit aujourd'hui, avec Mars en particulier, a un intérêt tout à fait particulier. Mais maintenant, je vous ai dit, si on veut comprendre tout ça, il faut aussi avoir accès aux conditions initiales. Comment savoir ce qu'était le système solaire au démarrage et qu'est-ce qui, dans ces conditions-là, ont tellement affecté l'évolution qu'aujourd'hui, on retrouve les objets dans la diversité que je vous ai décrite. C'est une question qui a beaucoup changé cette fois-ci, l'accès aux conditions initiales, parce que pendant très longtemps, on s'est dit, bon ben voilà, toute la mémoire est partie, comment savoir ce qui se passait il y a 4,6 milliards d'années? Alors, il y a plusieurs manières de faire ça. L'une, c'est de regarder ailleurs dans l'univers des endroits où aujourd'hui, on aurait accès à ce qui se passait chez nous il y a très longtemps. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne vais pas apporter de photos là-dessus, mais enfin, j'en ai d'ailleurs, mais ce n'est pas le plus important. On peut aujourd'hui observer des régions où se forment des étoiles aujourd'hui, très semblables à ce qu'on croit être la manière dont le système solaire s'est formé il y a près de 5 milliards d'années. Donc il y a effectivement des gens qui, travaillant sur notre galaxie, sur des sites où se forment des étoiles actuellement, essaient de nous donner des informations sur la manière dont les choses se sont passées chez nous. Mais ce qui fait qu'on a une chance considérable dans le système solaire, et ce que je vais essayer de vous décrire aussi, c'est qu'on peut aujourd'hui analyser des matériaux qui ont gardé pratiquement intactes les propriétés qu'ils ont acquises à l'époque. On a des vestiges de ce qui s'est passé à l'époque qui permet aujourd'hui de dire, ben voilà, si on veut savoir comment était ce matériau, quelle était sa dynamique, quelle était sa composition, il suffit d'aller regarder un certain nombre d'objets qui sont encore présents chez nous. Et vous voyez bien vers où je veux en venir, c'est que, comme je vous disais tout à l'heure, que plus les objets sont petits, plus ils ont pu maintenir une température froide, hein, plus ils sont gros, plus ils ont pu chauffer, eh bien, au fur et à mesure que vous diminuez la taille, vous apercevez que les objets de petite dimension, ils ont pu rayonner dans l'espace toute l'énergie dégagée par la radioactivité dans l'intérieur. Ils sont restés à peu près dans l'état où ils étaient. Alors, que veut dire petit ? Ben, petit veut dire typiquement des kilomètres, des dizaines de kilomètres. Si dans le système solaire, il y a des objets de quelques kilomètres, quelques dizaines de kilomètres, vous pouvez vous dire, a priori, ces objets-là, sauf s'il s'agit de fragments, bien sûr, d'objets plus gros, mais ces objets-là, s'ils sont dans l'état où ils étaient formés à l'époque, eh bien, les propriétés dans lesquelles vous les voyez aujourd'hui, c'est les propriétés qu'ils avaient à l'époque. Et bien sûr, il y a deux grandes catégories d'objets qui sont dans cette classe-là. C'est ce qu'on appelle les comètes et les astéroïdes, qui sont deux familles, en fait, que l'on croit très différentes, même s'il y a pas mal de points communs. Et c'est là-dessus que je vais maintenant centrer la suite de mon propos. Comètes et astéroïdes ont une grande vertu, c'est qu'en les observant, on observe quelque part le système solaire tel qu'il était il y a 4,6 milliards d'années. Et ce que je vais assez brièvement, c'est vous montrer quelles sont les pistes qui nous permettent, à partir de l'étude des astéroïdes et des comètes, d'avoir des informations sur les premières étapes qui ont pu créer, encore une fois, des cheminements divers de l'évolution planétaire. Mais vous verrez que non seulement ces objets astéroïdes et comètes sont intéressants pour cet aspect-là, aspect vestige, mémoire, mais ils sont très intéressants parce que ces objets-là, de temps en temps, ils impactent encore d'autres objets, en particulier la Terre. Et ce que je vous glisserai aussi, c'est de vous montrer quels ont pu être et quels seront éventuellement les effets de ces impacts tout au cours de l'histoire, l'histoire passée, présente et future. Et vous verrez que ça peut être aussi majeur. Alors, je vais arbitrairement commencer par les comètes et terminer par les astéroïdes. Ça, c'était le dessin dont je vous parlais tout à l'heure de ce qu'aurait pu être la Terre si on avait fait son image il y a 4,2, 4,3 milliards d'années. Vous voyez, ça ressemblerait, ça devait ressembler énormément à ce qu'est encore aujourd'hui la Lune. Alors, je vous ai dit, on va parler un petit peu des comètes. Et les comètes, pour tout le monde, ce sont des objets comme vous les voyez là. En fait, jusqu'à il y a très peu de temps, les gens, vous les connaissiez essentiellement que par des images, parce que personne n'avait jamais vu de comètes. Mais vous savez que depuis une dizaine d'années, on a eu pas mal de chance, puisqu'il y a quelques belles comètes qui ont éclairé nos ciels d'été, en particulier Hale-Bopp, il y a 2 ans. Et donc, tout le monde a pu voir ce genre de phénomène-là. Et les comètes sont repérées comme ça, par le fait que vous avez comme un grand nuage qui se promène dans l'espace. Vous savez que les comètes sont repérés quand ils dégazent comme ça. Je vais revenir bien sûr plus en détail là-dessus. Mais une des choses étonnantes des comètes, c'est que vous l'avez bien vu avec Hale-Bopp ou d'autres, c'est que les comètes, quand vous les voyez bien pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois, vous les repérez dans le ciel et puis ça disparaît. Ce sont des objets qui n'apparaissent qu'à des moments très particuliers. Vous pouvez passer votre vie sans en voir et vous pouvez passer de temps en temps votre vie en en voyant une ou deux ou trois très belles. Et il y a des moments qui ont été répertoriés, où effectivement certaines comètes très spectaculaires sont arrivées, mais très spectaculaires veut dire que c'est beaucoup plus que ce qu'on a vu avec Hale-Bopp, qui était déjà pas mal, parce que ce point en plus, on se posait quand même des questions, mais quelquefois vous pouvez un objet qui peut être jusqu'à presque aussi lumineux que la Lune, ou quelque chose comme ça, donc vous ne pouvez pas passer à côté. Et ça, ça a toujours été, bien sûr, dans la mesure où on ne pouvait pas comprendre d'où ça venait, aujourd'hui j'espère que ça serait différent, mais dans la mesure où on ne savait pas, ça a toujours été entouré de tout un tas de mystères. Que sont ces objets-là? Il a fallu attendre le XVIIe siècle pour comprendre déjà que c'était des objets internes au système solaire. Et c'est ça qui a fait courir, mais je ne vais pas être très très long là-dessus, tout un tas de mythologies au sens premier du terme sur ce que sont ces objets-là. Et on en a, je ne vais pas parler de ça, je reviendrai là-dessus dans un instant. Il y a deux formes de ces mythologies qui sont bien connues en France. Celle-ci parce que c'est un fragment de la... J'arrive jamais à mettre au point avec ça, mais enfin, ce n'est pas un drame absolu. Ça vous rappellera quelque chose que vous devez connaître. Qui est un fragment de une tapisserie qui est à Bayeux, qui a été fait par la reine Mathilde. Donc, ça date du XIe siècle. C'est le plus ancien des vestiges que l'on a chez nous en France. En fait, il y en a plein d'autres dans d'autres pays. De quelque chose qui illustre une comète. Vous voyez la comète en question. J'ai un pointeur ici. Bon, il y avait un pointeur. Enfin, si, le voilà. C'est ça la comète ici. Et vous voyez que la légende Istimirante Stella veut dire, vous voyez ici le roi Harold, ses conseillers qui sont en train de lui dire tu ne devrais pas faire la guerre parce qu'une comète est venue. C'était l'époque où, en tout cas sur cette illustration-là, les comètes étaient présages de malheur. Et comme vous le savez, le roi Harold a été tué juste après, à la bataille d'Hastings, par Guillaume le Conquérant, date à laquelle l'Angleterre est devenue française. Et c'est justement la reine Mathilde qui a fait faire cette représentation. Donc, présage de malheur incontestable. Celle-ci, qui est bien connue aussi, elle date du début du XIVe siècle, c'est 1301, c'est Giotto qui a fait ça. Si vous voulez la voir, vous allez à Padoue, et dans une petite chapelle de Padoue, vous verrez un grand nombre de toiles de Giotto, dont celle-ci qui est bien sûr l'adoration des mages, ça se passe à Bethléem, et vous voyez encore ici la comète de Halley. D'ailleurs, c'est après qu'on a su que c'était la comète de Halley, bien sûr, une comète, parce qu'il se trouve qu'en 1301, au moment où Giotto a peint ce tableau, cette comète-là était très, très forte dans le ciel, et donc il n'a pas pu ne pas faire la relation entre ce qu'il voyait et ce qu'il lisait dans Saint-Luc, à savoir la fameuse étoile de Bethléem, dont on pourrait reparler si ça vous intéresse, mais qui a toutes les raisons de ne pas être une comète, d'ailleurs, parce qu'il ne faut quand même pas pousser. Mais alors, la question après de savoir si c'est un présage de malheur ou de bonheur, ça je vous en laisse l'interprétation, mais en tout cas, lui a considéré que la naissance du Christ a été faite au moment et par la présence de cette comète dans le ciel. Donc, pendant longtemps, ces comètes sont restées essentiellement des choses qu'on ne pouvait pas vraiment expliquer et mystérieuses pour autant. C'est resté jusqu'à très récemment, mais bien sûr, les choses importantes, c'est ce qu'est ce matériau et en quoi il nous intéresse. Et pour vous dire les choses, alors je vais revenir quelques photos en arrière. Voilà, cette photo-là qui n'est pas... Bon, il y a beaucoup de projecteurs. Moi, je ne vois pas grand-chose, je ne sais pas si vous voyez, mais enfin bon. Vous avez ici le Soleil, la trajectoire de la Terre ici, en blanc, et ça, c'est la trajectoire de la comète. Et vous voyez sur cette trajectoire une comète qui est en train, peu importe d'ailleurs dans quel sens ça se passe, vous voyez que quand la comète est très loin, en fait, on ne la voit même pas, c'est un point, et au fur et à mesure qu'elle se rapproche ici, eh bien, il y a une énorme queue, en fait, deux, comme ça, qui se développe de plus en plus. Pourquoi c'est comme ça? Eh bien, c'est facile à comprendre, c'est que ces comètes, en fait, ce sont des blocs de glace qui ne sont pas très grands, c'est quelques kilomètres et quelquefois moins que ça. Imaginez le Mont Blanc qui se promène dans l'espace, et quand il est loin du Soleil, comme il fait très froid, eh bien, c'est de la glace gelée, c'est un petit bloc que vous ne pouvez pas voir et vous ne le voyez effectivement pas quand il est très loin. Mais au fur et à mesure qu'il se rapproche, bien sûr, l'énergie du Soleil vaporise, transforme cette glace en vapeur, et c'est ça qui fait que ça se développe, cette énorme queue de gaz. Et comme il y a des petits grains piégés dedans, ben ça fait aussi de la poussière qui part. Et c'est d'ailleurs ces petits grains qui, libérés dans l'espace, meublent finalement tout l'espace. Et quand la Terre rentre dedans, ces petits grains rentrent à vive allure, parce que ça se promène à plusieurs dizaines de kilomètres par seconde, dans l'atmosphère, ça brûle et c'est ça qui donne les fameuses étoiles filantes et les pluies qui sont régulières. Si ça vous intéresse, on pourra en parler plus en détail, mais ce n'était pas le but ici. Donc, les comètes ne sont visibles en fait que quand elles sont entourées de ce produit de l'interaction entre le Soleil et ce noyau de comète. Mais vous voyez bien qu'une fois qu'il y a eu cette interaction, en fait c'est pour les scientifiques quasiment le moment le moins intéressant, c'est que vous ne voyez plus le matériau d'origine, vous voyez le matériau transformé par le fait que le Soleil lui soit tombé dessus. Ce qui nous intéresserait, c'est de savoir réellement quel est le matériau avant que le Soleil n'agisse dessus. Puisque je vous ai dit, avant que le Soleil n'agisse, ce matériau qui est ici, il est extrêmement froid. On a toutes les raisons de penser qu'il est froid depuis qu'il a été formé, c'est-à-dire depuis 4,6 milliards d'années. Et c'est en 1986, alors la trajectoire ici, qui est une trajectoire banale de comète, il y en a comme ça un certain nombre, elle pourrait être celle de la comète de Halley. La comète de Halley, sur laquelle je vais parvenir en détail, c'est une comète qui a une période comme ça de 76 ans, qui était repassée en 1910. Et en 1910, quand elle était venue, elle était extraordinairement spectaculaire. Elle est arrivée à un moment où il se trouve que la position relative de la Terre, de la comète et du Soleil était telle qu'au moment où elle dégageait l'essentiel de son activité, elle était tout proche de la Terre et on ne pouvait pas ne pas la voir. Et en plus, il y avait le Soleil dans le dos, ce qui veut dire que par rediffusion, on la voyait très bien. On la voyait la nuit, on avait le Soleil dans le dos, donc c'était la nuit. C'était parfait, on la voyait très bien. Il se trouve qu'en 86, elle était repassée en 86, au moment où elle dégageait sa grande queue, elle était de l'autre côté par rapport à la Terre, du Soleil, donc personne d'entre vous n'a pu vraiment la voir parce que quand elle était au plus beau, en fait, la Terre était au plus mal, c'est-à-dire de l'autre côté du Soleil. On n'avait aucun moyen de la voir. Mais c'est l'époque où on s'est dit, si on veut faire quelque chose de bien, eh bien c'est peut-être le moment, on va envoyer des sondes pour aller, parce qu'on avait acquis la capacité de le faire, donc en 1910, mais en 1986, et c'était une des premières très grandes missions interplanétaires jointes de l'Europe et de l'Union soviétique pour aller à la rencontre de la comète de Halley. Alors, il y a eu beaucoup de résultats extrêmement importants, d'ailleurs qui n'ont pas été popularisés peut-être autant qu'il aurait fallu. Et bien sûr, une des raisons pour lesquelles ça n'a pas été popularisé, c'est que pour la première fois, une grosse exploration a été faite sans les États-Unis d'Amérique. Il y a eu 5 sondes qui sont parties, 2 sondes soviétiques, une sonde japonaise, 2 sondes japonaises et une sonde européenne. Et d'ailleurs, la sonde européenne s'appelait Giotto pour cette raison-là. Et les résultats ont été tout à fait spectaculaires. Et pour vous donner les résultats, il faut vous dire que on va à la rencontre d'un noyau cométaire. Un noyau cométaire, on avait toutes les raisons, à cause de tout ce qu'on avait vu avant, de penser que c'était essentiellement de l'eau qui se vaporise, donc de la glace à l'origine. Si vous allez voir un bloc de glace, vous allez à la rencontre du Mont Blanc, vous attendez à avoir un truc très brillant. Et effectivement, de la glace devrait être brillant. Et effectivement, le noyau de la comète de Halley contient plus de 50% d'eau. Eh bien, le premier grand résultat qu'on a observé, et un certain nombre d'entre nous, y compris dans cette salle, ont travaillé sur cette exploration, les premiers grands résultats ont été absolument spectaculaires. À la rencontre du noyau de la comète de Halley, il y a eu des images qui ont été prises. Ici, vous avez une image D'ailleurs, sur la suivante, ça c'est l'image la plus belle, si on peut dire, prise par la sonde Giotto du noyau. Voilà le noyau. La comète de Halley est un grand machin qui fait, si on peut dire, à l'échelle d'un noyau cométaire, puisque ça fait presque une quinzaine de kilomètres. Et là, il y a le Soleil ici qui est en train de vaporiser tout ça, c'est des jets de gaz. Alors, ce n'est pas brillant, mais c'est comme ça. Il se trouve que ce noyau-là, c'est l'objet le plus sombre qu'on ait jamais trouvé dans le système solaire. C'est plus sombre que du noir, c'est plus noir que du noir de carbone, c'est plus noir que ce matériau-là. Pour un objet qui est fait à plus de 50% de glace, il y avait matière à s'interroger. Comment ça se fait? Eh bien, il y a 4 ou 5 instruments majeurs sur ces missions-là qui ont débusqué l'essentiel. Et pour résumer un petit peu, parce que le temps passe, la raison est la suivante. C'est que vous avez bien sûr de l'eau, mais vous n'avez pas que de l'eau. Les comètes se sont formées au début de l'histoire du système solaire dans un environnement relativement loin du Soleil, très au-delà de ce qui est aujourd'hui l'orbite de Jupiter et même de Saturne, où il faisait tellement froid que tous les composés, y compris l'eau, le gaz carbonique, etc., étaient piégés sous forme de glace à très basse température. C'est comme des petits grains, enfin des grains de glace qui se sont agglutinés. Et ça agglutinait tout ce qui était présent. Et l'eau dominait, et le gaz carbonique dominait. Ça agglutinait tout ça. Et puis il y avait des petits grains là-dedans, ça agglutinait tout ça. Et encore une fois, l'eau était plus de la moitié des composés. Mais on pensait que, comme ça a pris tout ce qui était disponible dans le matériau et que l'eau dominait, on pensait que le reste était décomposé comme CO, CO2, du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone, un petit peu d'ammoniac, des glaces, mais toutes ces glaces-là, on le sait bien parce que ça se fabrique en laboratoire, c'est très brillant. Eh bien, on a découvert qu'en fait, ce n'est pas du tout le cas. Il y a bien de l'eau, il y a bien du CO et du CO2, mais en fait, l'essentiel du carbone n'est pas sous la forme de ces petits composés-là. L'essentiel du carbone, plus de la moitié du carbone, est sous la forme en fait, de très grands composés organiques, grands au sens moléculaire du terme, des composés réfractaires très sombres, et que c'est ça qui domine aussi bien la couleur du noyau de la comète que probablement la composition du matériau à partir duquel toutes les planètes se sont formées. Ce qui veut dire que dans le noyau de la comète qui en fait a échantillonné le matériau d'origine, le carbone, qui vous savez est très important vu que c'est le carbone qui est à l'origine de toute la chimie organique qui a donné ensuite la biologie, eh bien, ne se retrouve pas essentiellement sous forme de tout petits composés, c'est sous forme de macromolécules. Et de macromolécules qui ont la vertu d'être extrêmement sombres. Le meilleur exemple, moi je le connais, c'est que quand vous avez un brûleur de cuisinière, vous savez bien que votre brûleur de cuisinière, au bout d'un certain temps, il devient très sombre et vous avez beau le frotter, vous ne pouvez pas le frotter. Pourquoi il est sombre et qu'il est infrottable, si je puis dire? C'est que vous avez des graisses qui sont sur le brûleur, et puis ces graisses, parce qu'elles sont cramées par le brûleur, elles se transforment, c'est du cracking, le fameux cracking des chimistes, qui fabriquent par polymérisation des composés extrêmement réfractaires, très sombres, et que vous ne pouvez absolument plus attaquer. Eh bien, c'est probablement le meilleur exemple de ce qu'est la chimie organique qui était présente dans le système au moment où les planètes se sont formées, et qui est encore piégée dans les noyaux cométaires. Et ces choses sont extraordinairement importantes parce qu'on ne sait pas, jusqu'à aujourd'hui, comme on n'était pas préparé à ça, parce qu'on ne s'y attendait pas, il faut bien le dire, on n'avait aucun instrument qui nous permettait de mesurer la composition de ces choses-là. Simplement, les appareils que l'on avait nous ont montré qu'il y avait quelque chose de passionnant, quelque chose de très intéressant, qui était très différent de ce qu'on imaginait. C'était, je dirais qu'une bonne recherche déboute sur plus de questions que de réponses. Eh bien, l'exploration de la comète de Halley est exactement dans ce cadre-là. Ça débouchait sur une problématique fondamentale, qui est lié au fait que les comètes ont échantillonné un matériau qui a montré qu'il avait évolué chimiquement extrêmement loin, mais jusqu'à un stade qu'on ne connaît pas. Et on s'est aperçu qu'effectivement, quand les astrophysiciens regardent le milieu interstellaire, on trouve qu'il y a des molécules un petit peu partout. Le carbone se met sous forme de molécules pour faire de l'alcool, des choses comme ça. On a des molécules assez complexes. Mais on n'a jamais pu sonder des nuages jusqu'à des densités telles qui sont les densités dans lesquelles les planètes sont apparues. Et on sait bien qu'au moment où le système solaire s'est formé, eh bien, c'est un nuage qui, par contraction, s'est densifié de plus en plus. Et on n'a jamais pu savoir quelle était la composition. Eh bien, les comètes, parce qu'elles ont échantillonné ce matériau, démontrent qu'au fur et à mesure que ce matériau s'est effondré sur lui-même, il y a eu énormément de réactions chimiques et le carbone s'est mis en relation avec tous les autres atomes, oxygène, hydrogène et azote essentiellement, pour faire ces molécules qu'on a retrouvées dans la comète de Halley sans pouvoir les identifier comme des molécules qui ont en particulier cette vertu d'être extrêmement sombres. Mais bien sûr, le plus important, ce n'est pas ça. Le plus important, ça serait maintenant de savoir quelle est la complexité moléculaire. Et il faut bien dire que pour l'instant, on n'en sait trop rien, on essaie de rechercher. Maintenant qu'on a cette piste, dans toute la possibilité qu'on a de travailler sur des échantillons de comètes qui nous tombent dessus, je vous ai parlé des étoiles filantes, il y a possibilité d'avoir des grains de comètes qui de temps en temps ne brûlent pas entièrement et se sédimentent dans l'atmosphère, on essaie d'en récupérer. De même que les météorites sur lesquelles je reviendrai pour finir nous donnent quelques informations, on trouve de cette matière organique, on voit effectivement qu'il y a de la matière très complexe, on ne sait pas jusqu'à quel niveau ça a été. Et je dirais que c'est l'une des raisons fondamentales pour lesquelles l'Agence spatiale européenne a décidé de refaire une mission mais bien, de bien plus grande ampleur vers un noyau cométaire. Et cette mission qui était mentionnée tout à l'heure comme la mission qui s'appelle Rosetta, et si on a choisi Rosetta, c'est avec la notion précisément de pierre de Rosette, on est convaincu que si on y va pour essayer de comprendre de quoi est fait ce matériau, on aura des clés importantes sur l'évolution du système solaire. Cette mission Rosetta, elle va partir en 2003 avec une Ariane 5, en janvier 2003. Elle va faire une énorme croisière, puisque 9 années de croisière, pour aller à la rencontre d'un noyau cométaire de très petite dimension. On l'a choisi essentiellement parce qu'il est accessible, je dirais, par la sonde au bout d'un certain temps. Ça va arriver en 2011. On sera à ce moment-là à 1 milliard de kilomètres de la Terre. C'est un noyau qui ne fait même pas 1 km de l'ordre de 1 km de diamètre. C'est un tout, tout petit objet. On l'a observé 2-3 fois, mal, comme vous pouvez imaginer. On va se mettre en orbite autour de ce noyau. Et il y a un certain nombre d'instruments qui vont essayer de le cribler d'observations, d'imagerie, en optique, en infrarouge, dans tout ce que l'on peut pour essayer de savoir de quoi est fait ce matériau-là. Et à un moment donné, cet engin en orbite va éjecter un petit lander, et c'est la seule chose que je vais vous montrer ici, si je peux y passer. Comment on fait? Non, on m'a dit qu'il fallait faire ça simplement, non? Ah bon. Ça, c'est une image, bien sûr, de ce que sera le lander qu'on est en train de fabriquer, qui va aller se poser sur un noyau cométaire et qui va aller prélever des échantillons, les analyser, et on travaille beaucoup là-dessus, vu que le tir, comme je vous ai dit, c'est en janvier 2003, c'est bientôt maintenant, dans 2 ans et demi. Et on espère bien, à ce moment-là, avoir une idée par ça de ce qu'est ce matériau, prisonnier actuellement dans le matériau cométaire, qu'on a représenté tout blanc ici, mais il y a énormément de zones sombres dedans. Alors, je ne dis pas qu'il y a de l'ADN dedans, mais s'il y a eu des molécules organiques de haut poids moléculaire, jusqu'éventuellement aux précurseurs de la biologie terrestre, nous devons de les identifier parce qu'on pense que c'est de nature à nous expliquer beaucoup de choses. Alors, j'arrête avec ce transparent pour vous dire que la raison pour laquelle on pense que c'est très important, c'est que des comètes, en permanence, il en tombe sur la Terre. On a vu en 1994, il y a eu cette fameuse rencontre de Shoemaker-Levy avec Jupiter. Eh bien, des impacts comme ça, il peut y en avoir sur la Terre elle-même. On sait que quand un objet comme ça tombe sur la Terre, on ne sait pas tous les matins, il n'y en aura pas aujourd'hui, mais on peut évaluer même la quantité de matière cométaire intégrée sur l'année qui nous tombe dessus. Il y a à peu près 20 000 tonnes de matière cométaire par an qui tombe sur la Terre. Alors, 20 000 tonnes comparé à beaucoup d'autres choses, ça ne fait pas beaucoup, ça fait quand même intégré sur l'ensemble de la vie du système solaire énormément. Surtout qu'on a toutes les raisons de penser qu'au début de l'histoire, comme je vous ai dit, le taux de bombardement était bien supérieur. Il y a deux choses importantes à se souvenir de là. C'est que quand une comète nous tombe, essentiellement ce qu'elle va nous donner, c'est de l'eau, puisqu'elle est faite à 50% d'eau. Eh bien, alors on peut se tromper là-dedans, on ne connaît pas exactement les proportions. On est à peu près convaincu qu'une grande fraction, en tout cas plusieurs pourcents, il y en a qui pensent que c'est 2-3%, il y en a qui pensent que c'est plus de 50%, de l'eau terrestre provient des comètes. Et moi, je suis toujours ému quand je pense que quand je prends ce verre d'eau ici, j'ai au moins, voilà, ça, c'est au moins, ce contenu-là provient des comètes, effectivement. J'ai au moins un verre d'eau par bouteille de Vittel, ou de je ne sais quoi, qui provient des comètes, bien sûr, intégrées sur l'année. Et ça a toutes les raisons d'être vrai. Est-ce que c'est la moitié? Je n'en sais rien. Alors, ça, c'est bien sûr important. Cela dit, ce n'est pas le plus important pour l'histoire du système solaire, parce que l'eau, qu'elle vienne des comètes ou qu'elle vienne d'ailleurs, c'est toujours la même molécule, elle n'a pas de vertu particulière. Mais la vertu de l'eau cométaire, c'est qu'elle ne vient pas toute seule, c'est qu'elle vient avec la chimie organique qui va avec, et que cette chimie organique, il n'est pas exclu que ça soit une chimie extraordinairement complexe, et que parce que l'eau venant des comètes a été stable pendant très longtemps sur Terre à l'état liquide, ce qui était probablement le seul cas dans le système solaire, lorsque vous avez un grand bassin d'eau et que dedans, en plus, vous avez des molécules complexes qui sont là, il est clair que ça peut nous aider considérablement à franchir toutes les premières étapes de l'évolution chimique qui ont pu conduire à la vie sur Terre. Donc vous voyez que les impacts de comètes sont loin d'être anodins sur leurs effets, et une grande partie de ce qu'on va faire avec la mission Rosetta, c'est d'essayer justement de comprendre ce que peuvent être les imports organiques qui proviennent d'une telle mission. Je ne vais plus dire rien sur les comètes, mais comme on m'a demandé aussi de parler des astéroïdes, je vais en dire deux mots puisque j'ai encore 2-3 minutes, hein, c'est ça? Ah, j'ai même 10 minutes, alors j'ai tout le temps de parler, 8 minutes. Alors si j'ai le temps de parler des astéroïdes, il ne fallait pas me dire que j'ai 10 minutes, il ne faut jamais me dire que j'ai 10 minutes. Les astéroïdes, la première preuve que l'on en a qu'ils existent, c'est parce que de temps en temps, il y a des objets qui nous tombent dessus, ce qu'on appelle des météorites. Alors ça, on le sait depuis longtemps, et on a beaucoup de gravures qui nous le montrent. Les météorites, il y en a de toutes tailles, je vais revenir un petit peu là-dessus, mais c'est des pierres assez extraordinaires, et il faut que vous sachiez, c'est qu'à Paris, au Muséum d'Histoire Naturelle, il y a une des plus belles, la troisième, collection du monde de météorites, et je vous engage vraiment à aller la voir, surtout que dans très peu de temps, ça va être remis à neuf dans le cadre du Muséum d'Histoire Naturelle. Alors, d'où viennent ces météorites? C'est une des choses peut-être les plus passionnantes, c'est que quand vous regardez le système solaire, alors là, vous avez bien sûr quelques trajectoires, vous avez le Soleil au centre, et puis tous les petits ronds ici, c'est toutes les trajectoires jusqu'à Mars, ici. et puis après, il y a Jupiter, etc. Les gens, depuis longtemps, quand ils ont regardé un petit peu les trajectoires de Mercure, Vénus, la Terre, Mars, se sont dit, il y a une certaine... Ils ont essayé de bâtir des lois pour essayer de comprendre pourquoi les orbites sont en telle dimension, pourquoi les planètes sont à une telle distance du Soleil. Et il y a tout un tas de lois, comme ça, empiriques, qui d'ailleurs reposent sur de la physique, qui ont été bâties, qui nous expliquent que c'est normal que Mars soit à cette distance, la Terre à cette distance, etc. Mais quand on croit à ces lois-là, on s'aperçoit qu'entre Mars et Jupiter, il y a un énorme trou. Et il devrait y avoir une planète à l'intérieur. Les gens sont toujours dit, mais il y a un problème. Je suis convaincu qu'il doit y avoir une planète à peu près à mi-chemin entre Mars et Jupiter. La loi qui nous permet de comprendre toutes ces orbites ici et Jupiter expliquerait qu'il y ait une planète ici. Et les gens ont cherché cette planète et ils ne l'ont jamais trouvée. Sauf qu'au début du 19e siècle, en 1801 exactement, un Sicilien nommé Piazzi, pour la première fois en cherchant cette dixième planète, enfin à l'époque il n'y en avait pas les neuf autres d'ailleurs, mais en cherchant une planète, a effectivement trouvé un objet et, qui s'appelait Cérès. On a décidé pour les astéroïdes de leur donner les noms des déesses. En fait, comme il était Sicilien, on a commencé par lui donner les noms des déesses latines, mais en fait c'est des déesses grecques qu'il aurait fallu faire. Mais bref, c'était Cérès le premier, c'est effectivement le plus gros d'entre eux. Il fait 1000 km de diamètre, 500 km de rayon, 500-600 un petit peu plus. Ce n'est pas énorme. Et en fait, c'est beaucoup plus petit que ce à quoi on s'attendait. Et la raison, c'est qu'au cours du temps, après, les gens ont essayé de voir s'il n'y avait pas d'autres planètes. Et effectivement, après Cérès, il y en a 3-4 autres qui ont été trouvées, en particulier des grosses, Cérès, après Cérès, Junon, Vesta, Pallas, des objets qui font typiquement quelques centaines de kilomètres de diamètre. Et puis voilà pour les plus gros. Et progressivement, avec des moyens bien sûr accrus, en particulier avec ce siècle et plus récemment, on s'est aperçu que dans cette zone-là, ce n'est pas un ou deux, mais c'est, on a trouvé 1000, puis des dizaines de milliers. Et en fait, on pense qu'il y a des millions, des milliards d'objets qui gravitent ici, entre Mars et Jupiter, qui sont symbolisés par tous ces petits points ici. Là, c'est marqué zone des petites planètes. Et tous ces objets-là, pendant longtemps, on s'est posé la question de savoir ce que c'est. Est-ce que ça ne serait pas une planète qui s'est fracturée? Parce qu'effectivement, la masse intégrée de tout ça, c'est à peu près la masse de Mercure. Les gens se sont dit, tiens, c'est bizarre, tout se passe comme si on a une planète qui s'est fracturée. Et maintenant, on est à peu près convaincu du contraire, c'est que ce ne sont pas les débris d'une planète qui se serait fracturée, ce sont les débris d'une planète qui n'a pas été jusqu'à son accrétion. Quand une planète se forme, elle prend tous les petits grains qui étaient là au début, puis ça s'accrète, comme on dit, ça s'agglomère jusqu'à grossir pour devenir une planète. Et puis à un moment donné, ça devient une planète. Eh bien, on est convaincu maintenant, et on sait même pourquoi, la planète qui était en train de se former ici, qui aurait dû naître, elle n'a pas pu naître à cause de l'effet de marée de Jupiter. Jupiter, qui est un énorme objet, a empêché, en fait, à cause des effets de marée, des effets différentiels de gravité, à cette planète-là d'aller jusqu'à sa compaction finale. Si vous voulez, c'est une formation, c'est un avortement de planète. Et c'est extraordinaire parce que ça veut dire qu'on a encore aujourd'hui un système dynamique qui est le système qui était le système de formation de toutes les planètes. On a devant nous la possibilité d'avoir accès à toute la dynamique d'accrétion. Je ne vais pas en parler plus, je pense que Brahek avant-hier a dû vous en parler parce que ça fait partie de ce qu'il a pu le faire lui-même, parce qu'il y a une grande école française qui essaye de comprendre toute cette dynamique collisionnelle qui a dû donner naissance aux planètes. Alors les astéroïdes sont très intéressants pour ça parce qu'ils sont donc ce résidu où on voit encore les blocs dans l'état où ils étaient. Mais comme ils sont tous sur des orbites très très voisines, ils se fracassent les uns sur les autres, il y a beaucoup de collisions. Et de ces collisions entre ces objets naissent des fragments qui sont évacués un petit peu partout dans le système solaire. Et c'est ça qui est à l'origine des météorites, parce que ces objets, comme ils traversent tout le système solaire, ben, de temps en temps, ils rencontrent les planètes. Et c'est ça qui, quand ils rencontrent une planète et que ça tombe sur la Terre, ça s'appelle une météorite. Une météorite, c'est n'importe quoi qui nous tombe dessus, ici sur Terre. Alors, combien il y en a qui tombent? Pour que vous sachiez, on a une bonne idée maintenant du flux de météorites, et heureusement pour nous, plus ils sont petits, plus il y en a. C'est-à-dire les plus nombreux, bien sûr, sont les plus petits. Quand je dis plus petits, c'est quelques millièmes de millimètre, des microns. Et puis ensuite, ça augmente comme ça. Des météorites de la taille du poing, à peu près un kilo, il y en a une dizaine par an sur la France. Alors, il faut vous dire, bon, 10 par an, je ne sais pas si vous jugez que c'est beaucoup ou pas beaucoup, ça fait qu'au total, depuis qu'on est capable de repérer, on en a quelques milliers, pas plus, sur Terre. On a identifié à peu près quelques milliers maintenant, à peu près 10 000, chute de météorites par des objets dont on a pu montrer qu'effectivement, ce n'est pas des objets formés sur Terre, mais des objets qui viennent de l'extérieur. Je n'ai pas le temps de vous expliquer pourquoi, mais c'est assez facile de montrer que ces objets viennent d'ailleurs. On a comme ça quelques dizaines de milliers, il y en a beaucoup plus qui sont tombés, mais bien sûr, la Terre étant un grand désert, et surtout la Terre étant surtout de la mer, il faut dire, eh bien, l'essentiel tombe ailleurs de notre champ de... C'est bien dommage parce que c'est un matériau extraordinairement précieux, vu que c'est un matériau qui est formé ailleurs et qui nous dit beaucoup de choses précisément sur l'origine du système solaire, puisqu'il provient de petits objets, et je lui ai dit, tout ce qui est petit a gardé pratiquement intact les conditions d'origine. Alors, il y a juste un mot. Alors ça, ce sont des photos d'astéroïdes qui ont pu te prendre, parce que depuis qu'on sait que ça existe, eh bien, il y a plein de sondes qui sont passées tout près. Ça, c'est la sonde Galiléo qui est passée devant des petits astéroïdes. Voilà à quoi ça ressemble. Ça, c'est Deimos. Alors Deimos, c'est rigolo parce que Deimos et Phobos, ce sont deux astéroïdes mais qui ont été capturés par Mars. C'est les deux petits satellites de Mars, mais qui en fait sont des, non pas, enfin, c'est des satellites de fait, mais ça n'a pas du tout la même origine que Mars. Ce sont des astéroïdes qui ont été capturés. Et ça, c'est une photo de Phobos, non pas qui a été prise comme ça devant Mars, mais c'est un montage qui a été fait de Phobos sur le fond de Mars, qui est très beau parce que c'est ce qu'on essayait et qu'on espérait voir le jour où une sonde, qui s'appelle la sonde Phobos d'ailleurs, devait s'approcher. C'est une sonde qui a été envoyée par les Soviétiques en 88, qui est arrivée là-bas en 89. Et en fait, elle a fonctionné un certain temps. Et ça, c'est une photo réelle que j'adore, qui n'a rien à voir avec ce que je raconte, mais je l'aime beaucoup, c'est pour ça que je vous la montre. Parce qu'elle n'est pas assez popularisée. Il faut vous dire qu'elle était soviétique, cette photo-là. C'est une photo... Ça, c'est Phobos, c'est réellement Phobos, pris par une sonde juste à côté, sur le fond de Mars. Ce que vous voyez ici, c'est Mars. Alors bien sûr, Phobos, comme c'est un astéroïde, c'est un objet extrêmement sombre, quelques pourcents d'albédo. Et donc, si vous êtes, si votre caméra est au point ici pour faire une belle image de Phobos, ben, vous êtes surexposé pour Mars, et c'est exactement le cas. Là, il faut travailler l'image pour voir les deux. Et quand on travaille, voilà un petit peu ce que ça donne. Voilà Phobos sur le fond de Mars. Vous voyez Valles Marineris, pour ceux qui connaissent, avec les trois volcans ici. Enfin bon. Moi, c'est une photo que j'aime beaucoup parce que c'est une véritable photo d'un astéroïde en orbite autour d'une planète. Et voilà Phobos, vu par la sonde qui s'appelle Phobos, prise en 89 par les Soviétiques. Alors, avant d'arriver là, ça, c'est les chutes de météorites. Ça, c'est les collègues de météorites en Antarctique. Je n'aurai pas le temps de vous en parler, mais ce n'est pas très grave. Ça, c'est une photo qui s'est mise un peu de travers. Mais voilà une des choses que l'on peut faire sur les météorites. Et je vais en parler deux minutes avant de conclure. Ça, c'est une coupe, ça fait quelques centimètres seulement, d'une météorite. On donne aux météorites le nom du village le plus proche à côté de lequel ils sont tombés. Il se trouve que cette météorite est tombée au Mexique, près d'une ville qui s'appelle Allende. Ce n'est pas le président, c'était la ville mexicaine, Allende. Et c'est une météorite qui est tombée en 69, c'est-à-dire un moment qui était assez remarquable. 69, c'est à la fois les échantillons lunaires, c'est-à-dire tous les laboratoires étaient tout prêts à analyser des échantillons extrêmement précieux avec des techniques extraordinaires. Et en plus, on a une météorite de 2 tonnes, extrêmement précieuse, qui arrive. Et comme elle arrive, on l'a vu tomber, les gens sont précipités pour aller récupérer des morceaux avant que la pollution et la contamination terrestre la modifient. Et cette météorite-là était le début d'une grande recherche tout à fait passionnante. Vous voyez cette météorite, donc ça c'est une coupe mince qui a été faite, polie, ça fait quelques centimètres, et vous voyez ces petits trucs blancs là, que l'on voit partout, ce qu'on appelle des inclusions blanches, elles sont tout à fait particulières. La matrice qui est un peu verte ici, quand vous l'analysez, elle ressemble, c'est des silicates comme il y en a sur le parking dehors. En revanche, sauf qu'il n'y a pas d'eau dedans, en revanche, ces petites inclusions-là, c'est des inclusions tout à fait particulières. Et pour la première fois, je vous ai dit, parce que ça arrivait à un moment où les techniques étaient très élaborées, on a pu analyser grain par grain tous ces petits grains-là. Et il y a des gens qui sont aperçus que quand on analyse ça, la minéralogie, c'est une minéralogie pour la première fois qu'on ne connaît pas sur Terre, la première fois qu'on trouvait vraiment des matériaux qu'on sait fabriquer sur Terre dans des études, c'est-à-dire qu'on peut fabriquer ça à haute pression, à haute température, mais ce n'est pas courant. Pourquoi ? Parce que justement, il faut des très hautes températures pour le faire, qui sont bien supérieures à ce qu'on croit être les conditions qui régnaient quand le système solaire s'est formé. Pour aller vite dans l'histoire, on s'est aperçu que tous ces petits grains-là, toutes ces inclusions-là, ce sont des inclusions qui sont formées, non pas nécessairement dans le système solaire, mais qui contiennent des grains qui sont formés avant que le système solaire ne se forme et qui ont été incorporés dans le système solaire. Et comme ces météorites proviennent d'objets qui n'ont pas été entièrement retransformés, ni pendant l'accrétion, ni ensuite pendant la vie de cet objet, parce qu'ils proviennent d'objets de petite dimension, comme je vous ai dit, eh bien, on a encore ici possibilité d'avoir accès à des grains qui ont été formés avant que le système solaire ne se forme, les identifier et avoir une idée de ce qu'était l'environnement du Soleil avant que le Soleil ne se forme. Je vais aller vite là-dessus, mais c'est un des sujets qui, depuis une vingtaine d'années, depuis qu'on a trouvé ça, ça a été trouvé dans, bien sûr, plein d'autres météorites, et le résultat de tout ça est absolument extraordinaire. Ça veut dire que tous les modèles que l'on avait qui consistaient à nous dire ben, quand le Soleil s'est formé, ça a tellement chauffé que ça a tout remis à zéro, tout a été fondu, ça s'est réhomogénéisé, pour l'essentiel c'est vrai, mais il y a la possibilité pour un certain nombre de grains d'avoir survécu. Et donc si on cherche bien, dans certaines météorites qui proviennent donc de certains astéroïdes, on a quelques grains qui ont encore la signature pré-solaire, c'est-à-dire de l'environnement dans lequel ils étaient avant que le Soleil ne soit pas là. Et si on les analyse grain par grain quasiment, on peut savoir quel était l'environnement solaire. Eh bien, pour aller vite sur les idées que l'on a sur la formation du système solaire, vous voyez, on peut avoir à la fois l'histoire et la géographie du système solaire naissant. C'est ça qui nous a démontré un certain nombre de choses, dont ce que je vais vous dire maintenant, très schématiquement, donc dès qu'on est un peu schématique, on est un peu faux, mais on est convaincu maintenant que le Soleil ne s'est pas formé seul. Le Soleil, il s'est formé au centre d'une énorme, grande nébuleuse, comme on dit, un grand nuage, mais qui contenait des dizaines de milliers de fois sa propre masse, qui s'est mis à s'effondrer. Et en s'effondrant comme ça, avant qu'un nuage à l'intérieur de ça donne naissance au Soleil, juste à côté, il y a un autre nuage qui s'est effondré et qui a donné naissance à une très grosse étoile, beaucoup plus grosse que le Soleil, 10 fois, 20 fois la masse de l'étoile, de notre étoile. Et quand une étoile a une masse qui est 10 ou 20 fois la masse du Soleil, on peut montrer assez facilement que cette étoile, elle évolue beaucoup plus vite en fait que le Soleil. C'est-à-dire que le Soleil, ça fait 5 milliards d'années, je vous dis qu'il brûle, il en a encore pour 5 milliards d'années. Une étoile comme la nôtre, le Soleil, met à peu près 10 milliards d'années pour évoluer. Si sa masse est 10 fois plus grande, au lieu d'être 10 milliards d'années, ça devient des millions d'années. Et des millions d'années, ça devient très court par rapport au temps qu'il faut pour qu'un nuage s'effondre et que le Soleil naisse lui-même. Eh bien, il se trouve qu'à côté du Soleil qui était en train de naître, il y avait un autre nuage qui a donné naissance à une étoile qui a peut-être 10 ou 20 fois la masse du Soleil. Et qui, alors que nous, à côté, on est en train de s'effondrer gaiement, eh bien, cette étoile, non seulement s'est effondrée, mais cette étoile a pu commencer sa vie jusqu'à la fin de sa vie. Elle a explosé à la fin, parce que les étoiles de grande masse explosent à la fin, c'est ce qu'on appelle une supernova. Et au moment où elle explose, elle éjecte dans l'espace tout un tas de choses. D'abord, tout son gaz, c'est une onde de choc qui balaye tout. Et en fait, c'est l'explosion de cette supernova à côté qui a favorisé l'effondrement de notre propre Soleil. Donc, notre Soleil, probablement, s'est formé parce qu'à côté, une supernova a explosé. Mais en même temps que cette supernova a explosé et engendré cette onde de choc qui a fabriqué notre effondrement, favorisé notre effondrement, ça a ensemencé avec tout un tas d'espèces qui ont été fabriquées dans l'étoile, en particulier des espèces radioactives à courte période, comme on dit, qui ont été ensemencées à la dernière minute, et puis avec des petits grains, etc., qu'on retrouve là. Sans aller plus loin, ce que je vais vous expliquer, c'est que maintenant, on peut faire de l'astrophysique aussi pour savoir comment le système solaire s'est formé, non pas simplement en observant le ciel avec des lunettes, mais en observant des grains sous un microscope. Et c'est ça qu'on peut faire avec l'étude des météorites, entre autres, avoir une très bonne idée de l'environnement initial du système solaire. Je vais terminer avec une ou deux idées toutes simples. C'est que les météorites, comme je vous ai dit, parce qu'elles proviennent des astéroïdes, elles nous renseignent sur des choses importantes, comme pour les comètes d'ailleurs, sur les premières phases de l'histoire du système solaire. Mais bien sûr, ces objets qui se promènent dans l'espace, dont je vous ai montré quelques photos tout à l'heure, c'est des objets qui, de temps en temps, peuvent rentrer en collision avec la Terre. Je dis, les météorites de ce point-là, il y en a 10 par an qui tombent sur la France. Plus ils sont gros, moins il y en a. Alors, tout à l'heure, j'ai passé très rapidement une photo, je peux la remettre, mais ce n'est pas très important. On a quelques beaux cratères d'impact à la surface de la Terre qui montrent que des objets sont tombés dessus. Je vais juste en remettre un et je parlerai en le montrant. Je l'ai montré celui-là simplement parce que c'est un des plus connus, parce qu'il est en Arizona, c'est le Meteor Crater. Il fait à peu près 800 mètres de diamètre et on a repéré d'ailleurs des fragments de la météorite qui a donné naissance à ça. C'est une météorite qui est à peu près de la taille de cet amphithéâtre. Donc vous imaginez un bloc de caillasse de la taille de cet amphithéâtre. Quand ça tombe à la surface, eh bien, ça fait un cratère comme ça. Beaucoup plus grand, bien sûr, que la taille de l'objet lui-même. Alors, tous les combien ça tombe, eh bien, on a pu dater l'âge où c'est tombé, c'est il y a à peu près 25 000 ans, et effectivement, c'est dans la statistique. Un objet de la taille de cet amphithéâtre tombe sur Terre, sur les terres émergées, en tout cas, à peu près tous les 25-30 000 ans. Comme la Terre est un grand désert, vous voyez que les dangers sont faibles. Et bien sûr, plus vous êtes gros, moins il y en a. Alors, si vous allez maintenant vers des objets qui sont plus de quelques dizaines de mètres, mais de quelques kilomètres, alors vous arrivez non pas tous les milliers d'années, mais tous les millions d'années. Et si vous prenez un objet de quelques, vous demandez tous les combien j'ai des objets de quelques kilomètres qui peuvent nous tomber dessus, eh bien vous arrivez typiquement à 50-100 millions d'années. Et si je le dis bien sûr, c'est simplement pour vous donner cette idée que effectivement tous les 100 millions d'années, on a une certaine probabilité que des objets de quelques kilomètres tombent sur la Terre. Et si je l'en parle, c'est que on est à peu près convaincu que des objets comme ça ont une importance majeure sur l'évolution de la Terre. En particulier, on est à peu près convaincu maintenant que c'est un de ces objets-là, tombant il y a à peu près 65 millions d'années, qui a fait ce bouleversement écologique majeur qui a été, que l'on date actuellement comme la fin du secondaire, le début de l'ère tertiaire, le passage entre le Crétacé et le tertiaire, comme on dit. Donc vous savez qu'il a été pendant très longtemps connu comme une phase où la biologie a évolué extrêmement vite, vu qu'on pense que les reptiles ont arrêté d'être l'espèce dominante, avec la fameuse fin des dinosaures, pour laisser en fait toute la place aux mammifères. On est à peu près convaincu, pour des raisons que je n'ai pas le temps d'expliquer ici, mais que certains doivent connaître, que c'est directement lié à un impact comme ça. Et ça, c'est facile de comprendre le type d'effet qu'un impact peut avoir. Le premier effet, c'est que vous voyez, il y a un énorme cratère qui est formé, c'est-à-dire qu'il y a du matériau qui est éjecté dans l'espace. Mais éjecté dans l'espace, ça ne veut pas dire que ça quitte la Terre. Éjecté dans l'espace, ça veut dire que ça monte à haute altitude, 5-10 km. Et qu'est-ce que ça va faire ce matériau-là? Eh bien, ça va essentiellement faire un écran de poussière. Et si vous avez un objet d'assez grande dimension, je dis quelques kilomètres, on peut montrer que l'écran de poussière que ça va donner va tellement assombrir la Terre qu'en particulier toute la végétation pendant un an, deux ans, parce que ça met plusieurs années pour redescendre, pour rediffuser, peut tout simplement disparaître. Et c'est d'ailleurs pour ça que tous les herbivores en premier qui ont disparu, semble-t-il, à l'échelle de, tout simplement parce que pendant deux saisons, il n'y avait rien à bouffer. Alors, il y a tout un tas de mystères liés à ça, bien sûr, qui fait que toute la vie n'a pas disparu, que certaines zones ont été plus protégées, certaines espèces plus que d'autres. Vous savez qu'en particulier, tout le phytoplancton a disparu. Et ça, on le voit bien, puisque dans des zones de calcaire qui datent de cette époque-là, et essentiellement les argiles qui sont sur le calcaire de cette époque-là, on peut montrer que les ammonites sont en nombre très moindre, etc. Il y a eu vraiment une disparition de beaucoup d'espèces liée à la disparition du phytoplancton de cette époque-là. Cela dit, la vie a pu repartir, mais on pense qu'il a fallu des centaines de milliers d'années pour que la vie, lentement, arrive à repartir. Elle est repartie sur un tout autre pied. Alors, pour conclure ici, ce que je vais vous dire, c'est que l'observation de toutes ces objets du système solaire, vous voyez que c'est extraordinaire parce que ça nous donne une bonne idée, et de mieux en mieux, de la manière dont tout ça s'est formé, et ça nous permet de comprendre la subtilité avec laquelle effectivement un objet a pu évoluer. Et vous voyez qu'il y a eu, entre autres, à la fois des choses, je dirais, permanentes, pérennes, comme l'évolution du moteur radioactif de la planète, mais il y a aussi des effets catastrophiques que l'on peut, on peut pas prévoir évidemment quand, quel jour la météorite va tomber, mais on peut prévoir la probabilité et donc suivre comme ça des seuils par lesquels, en particulier, la biodiversité a pu être vraiment affectée. Mais vous voyez que chaque fois qu'un gros déséquilibre comme ça arrive, il faut extrêmement longtemps pour revenir dans son équilibre. Ce vers quoi je veux conclure, c'est qu'il se trouve qu'au même moment, comme je disais tout à l'heure, où on commence à avoir la compréhension de tout cela, on s'aperçoit que l'activité de l'homme, non pas le fait qu'on parle ici, mais l'activité industrielle surtout, est en train de modifier les conditions globales au point de provoquer des déséquilibres à peu près équivalents à ce qu'une catastrophe a pu faire, sauf que la constante de temps tout d'un coup, que l'on aura pour réagir, ce ne sera pas des milliers d'années, ou des millions certainement, mais c'est à l'échelle de décennies. Et la grande question qui se pose, c'est est-ce que notre système aura la capacité de réagir, de se réguler, ou est-ce qu'au contraire, ça peut s'emballer? Et vous savez qu'on ne connaît pas la réponse à la question. Il n'est pas exclu qu'un dérèglement majeur trop brutal empêche le système de trouver les moyens de se réguler et au contraire arrive à une véritable catastrophe. Par exemple, on sait que sur Vénus, c'est une catastrophe, si on peut dire de ce type-là, un effet de serre divergent qui a fait que toute l'eau a quitté réellement la planète. Plus la planète a chauffé, plus l'eau est passée dans l'atmosphère, mais au lieu que la vapeur d'eau se condensant, ça refroidisse, l'effet de serre, au contraire, s'est emballé, ça a chauffé de plus en plus, toute l'eau a quitté la surface pour aller dans l'atmosphère, mais plus que ça, dans l'atmosphère, elle s'est dissociée et l'eau a même quitté, l'hydrogène a quitté la planète. Donc, on peut aller vers des effets comme ça. Il se trouve que sur Terre, on est en train de modifier à ce point que la question se pose de savoir ce que sera le prochain siècle, comme vous savez. Eh bien, on a aussi les outils qui nous permettent d'essayer de comprendre la subtilité de ces systèmes de régulation, et en particulier, avec, je vous disais, je vais parler de la couverture en nuages, mais il y a plein d'autres effets de régulation, d'essayer de savoir comment, effectivement, dans le passé, le système s'est débrouillé pour marcher, et comment, au siècle prochain, on l'espère, le système se débrouillera pour fonctionner. Voilà.
Monsieur, d'après ce que vous venez de dire à la fin, est-ce qu'il ne serait pas possible de ramener un astéroïde sur Terre de manière à reconstituer la couche d'ozone?
Bon. Il y a plusieurs voilà la réponse, mais je ne vais pas être trop long là-dessus. Est-ce qu'on peut ramener un astéroïde sur Terre? La réponse est oui. On pourrait ramener un astéroïde sur Terre. Je ne suis pas sûr que ça vaille vraiment la peine, mais ça je le dirai après, mais... On connaît maintenant la trajectoire de pas mal d'astéroïdes, non seulement ceux qui sont loin, mais ceux qui sont en orbite relativement proche de la Terre. Si on voulait, c'est plus un problème de volonté politique que de volonté technique, si on voulait avoir un système capable d'aller vers un astéroïde, de s'en ficher dedans et de modifier la trajectoire, il faut travailler dessus, ce n'est pas forcément à l'échelle de l'année qui vient, mais dans les 10, 15, 20 prochaines années, très vraisemblablement, on aurait cette capacité. Est-ce que ça coûterait cher? Même pas forcément. On a envisagé ça, non pas pour ramener un astéroïde sur Terre, mais par exemple pour fabriquer une deuxième lune. Il n'est pas exclu d'ailleurs qu'un jour on le fasse, c'est-à-dire de fabriquer des satellites réellement, mais au lieu d'envoyer des satellites pour faire des stations de plus en plus grandes, de prendre un objet qui fasse quelques dizaines, quelques centaines de mètres de diamètre, et effectivement faire en sorte que cet objet-là se mette en orbite de la Terre, non seulement pour éventuellement lui éviter de nous rentrer dedans, mais surtout parce que si on a un autre satellite autour de nous qui tourne, non seulement on peut en faire un bel observatoire, mais on peut en particulier l'équiper de panneaux solaires pour essayer de récupérer de l'énergie solaire, la convertir et ensuite éventuellement la descendre sur Terre. Ça serait sûrement mieux de recouvrir un objet comme ça de panneaux solaires que de recouvrir le quart de la France de panneaux solaires. Donc ça, on saurait le faire et la volonté existe quelque part, il y a beaucoup de projets. Donc ça ne coûte pas extrêmement cher, ça coûte moins cher que la plupart des vols habités qu'on envisage. Donc ça pourrait être fait. Est-ce que ça aurait un sens quelconque par rapport à la couche d'ozone? Je ne suis même pas sûr d'avoir bien compris à quoi vous faites allusion, mais ma réponse, c'est non. Et le problème, non seulement de la couche d'ozone, qui probablement peut se régler, mais surtout le problème du gaz carbonique qui est plus difficile, est certes un problème technique, mais quand même essentiellement un problème politique. On n'a pas le temps d'en parler ici. Il faut comprendre, problème politique d'abord, parce qu'il faut qu'on se donne les moyens scientifiquement de comprendre le problème. Et donc, il faut effectivement faire en sorte qu'on soit des programmes qui nous permettront de réellement comprendre ce vers quoi, où sont les dangers, ce vers quoi on va. Et une fois qu'on aura ça, je pense qu'on peut envisager des moyens de contrecarrer ça. Mais les dangers de la planète ne sont pas que des dangers liés à l'ozone, au gaz carbonique. Je pense en particulier que l'accumulation des armes nucléaires fait peser à notre planète des dangers autrement supérieurs. Les hivers tout courts qui ont eu lieu, par exemple, il y a 65 millions d'années par l'impact d'une météorite, on sait qu'actuellement, si on fait péter, même par inadvertance, les arsenaux nucléaires actuels, nous fabriquerons exactement le même genre de choses d'une manière non contrôlée. Donc je pense que le danger est réel, absolument, ça ne sert à rien de se cacher les choses. Il faut au contraire, les décisions sont des décisions non pas de spécialistes, mais des décisions de masse, je dirais publiques, politiques. Et c'est vers ça qu'il faut tendre, plus que vers l'idée que c'est des astéroïdes que viendra la solution des problèmes de l'ozone.
Monsieur ?
Oui, s'il vous plaît.
Bonjour.
Ma question concerne Mars, qui ressemble un peu à la Terre. On suppose qu'il y a eu de l'eau sur Mars, on suppose donc aussi qu'il y a eu une atmosphère. Échauffement, l'eau disparaît. Est-ce qu'on peut dire un peu plus de quelle manière, est-ce qu'on sait comment, de quelle manière l'atmosphère donc de Mars elle-même a disparu? Est-ce qu'on a des hypothèses là-dessus?
Voilà, alors on a des hypothèses. Est-ce qu'on sait? Non, on ne peut pas répondre. Je veux dire, si on ne sait jamais quelque part, et on a quelques pistes, effectivement, qui nous permettent d'essayer de comprendre ce qui se passe. D'abord, on connaît bien l'atmosphère présente. On ne connaît pas l'atmosphère passée de Mars. Donc même l'idée selon laquelle elle a disparu, c'est une hypothèse que l'on fait sur le fait que dans le passé, il y a eu une atmosphère dense. C'est même une controverse en soi. Qu'est-ce qui nous fait penser que dans le passé, il y avait une atmosphère relativement dense sur Mars? C'est précisément, c'est à l'inverse, c'est de se dire, si ce que l'on voit, on doit l'expliquer par du fait que l'eau était liquide, alors pour que l'eau soit liquide, ça suppose des conditions atmosphériques qui ne sont pas celles d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut démontrer facilement que l'eau ne peut pas être à l'état liquide sur Mars. Il faut que la pression soit bien supérieure à ça. Donc c'est ça qui nous fait dire qu'effectivement, rien n'empêche que dans le passé, au moment en particulier où la planète était très active, qu'il y avait énormément de volcanisme qui remontait en surface, beaucoup d'espèces piégées à l'intérieur, alors cette planète ait développé une atmosphère dense. Si tel est le cas, comment est-ce que l'atmosphère a pu disparaître? Il y a plusieurs idées possibles. L'une, qui est peut-être la plus simple, consisterait à dire, c'est facile. Si cette planète, parce que son moteur, la radioactivité dont je vous parlais tout à l'heure, au cours du temps, devient de plus en plus ténue, s'affaiblit, eh bien, à nouveau, l'atmosphère est un équilibre entre ce qui ressort et les pièges. Si les pièges dominent parce qu'il n'y a plus rien qui ressort, eh bien, tout va essentiellement se geler. Alors, sous quelle forme? L'eau, c'est assez simple. L'eau se met à rentrer dans le sol, ça percole dans le sol, ça rentre dedans, ça gèle et ça donne des couches de glace. Et c'est une des idées que l'on a aujourd'hui de penser que l'essentiel du réservoir d'eau martien n'est pas sous forme de liquide, mais sous forme de glace souterraine, simplement parce qu'il y a eu un cycle comme ça. Peut-être même que ça a toujours été d'ailleurs comme ça, mais qu'à un moment donné, ce cycle permettait à l'eau de ressortir en surface, alors que maintenant, il ne permet plus de ressortir en surface, et l'eau serait piégée, pas forcément sous forme de glace toute seule, mais sous forme d'un mélange de glace et de roche, qu'on appelle le pergélisol en français, le permafrost des Anglais, que l'on sait être présent sur Terre dans la région près des pôles. Donc ça, ce n'est pas exclu. Et un mécanisme thermique assez simple le montrerait. Mais si c'est le cas, il faut expliquer que les autres constituants ont disparu aussi. Et ça, c'est plus compliqué. Alors, quels sont les autres constituants? Le constituant majeur, c'est du gaz carbonique sur toutes les planètes. Sur Vénus, actuellement, la pression, c'est presque 100 fois la pression atmosphérique terrestre. Il y a 100 bars, presque 100 bars. Et ce n'est que du gaz carbonique. Il y a à peu près 100 bars de CO2. Sur chaque centimètre du sol, il y a 100 kg de CO2. Ça fait beaucoup. Et quand on compare le gaz carbonique sur Vénus et sur la Terre, il y a un facteur presque 100 000. Sur Terre, il n'y a pas beaucoup de gaz carbonique dans l'atmosphère. On sait qu'on a 0,03%, hein, 300 ppm, on en parle assez. Où est passé le gaz carbonique? Parce qu'on est à peu près convaincu que Vénus, comme la Terre, comme Mars, elles sont fermées, comme je l'ai dit, du même matériau, on doit avoir la même ressource. Où est passé le gaz carbonique sur Terre? Eh bien, on a la réponse, pour le coup. C'est que sur Terre, le gaz carbonique, qui était dans l'atmosphère, parce que l'eau était stable à l'état liquide, s'est dissous dans l'eau, ce qui n'était pas le cas sur Vénus, justement. C'est dissous dans l'eau, et quand le gaz carbonique se dissout dans l'eau, il s'ionise, et une fois ionisé, il peut se joindre avec des cations, du calcium en particulier, et faire des roches, des carbonates. Donc l'essentiel du gaz carbonique sur la Terre est en fait sous la forme des carbonates que l'on a à la surface de la Terre. Et on le sait bien, parce que chaque fois que vous avez, je raconte tout le temps, si vous voulez savoir où sont les carbonates? Vous regardez où il y a des oliviers, parce qu'on sait bien que l'olive aime le calcaire. Donc, où vous avez des olives, c'est qu'il y avait des carbonates. Et où est-ce que vous avez des oliviers? Là où la mer s'est retirée. Pourquoi? Parce que c'est les roches sédimentaires du fond des océans. Et sur le fond des océans, effectivement, on a l'équivalent de quelques centaines de mètres de carbonates, disons moyennés sur la planète Terre, qui correspond à la pression atmosphérique de Vénus. Donc, on a bien notre réservoir. Est-ce que sur Mars, il y a eu le même mécanisme? Parce que sur Mars, la pression totale actuellement, c'est 100 fois plus faible que la pression terrestre. Donc aussi, il manque un facteur à peu près 10 000 de gaz carbonique sur Mars, même sur Mars où pourtant il domine, mais il domine dans un niveau extrêmement faible. C'est une question qui n'est toujours pas tranchée. On ne sait toujours pas si sur Mars, le gaz carbonique se retrouve sous forme de carbonate, parce qu'en la cherchant, on ne l'a pas trouvé. Et pour tout vous dire, nous travaillons, on est en train de fabriquer un instrument, d'ailleurs, qui aurait dû voler. Il aurait dû voler avec la mission Mars 96 des Russes, mais qui a hélas foiré au démarrage, mais qui va repartir dans la mission Mars Express dont on parlait tout à l'heure, en 2003. Et c'est un des instruments qui devrait faire la cartographie du sol avec une résolution telle que s'il y a des calcaires quelque part, on devrait les voir. Ça serait très important parce que ça nous dirait deux choses. Un, qu'il y a effectivement ce mécanisme de piégeage à fonctionner, mais qu'il a fonctionné à travers de l'eau liquide, parce que c'est quand même le plus simple pour fabriquer ça. Ce qui voudrait dire qu'effectivement, il y a eu de l'eau pérenne. Et là où on trouverait des carbonates, ça serait comme sur les olives, pour les oliviers de la Terre, ça serait les endroits où il y aurait eu de l'eau et où peut-être, exactement comme sur Terre, c'est dans ces calcaires qu'on trouve les plus beaux fossiles, c'est peut-être là qu'il faudrait trouver les fossiles martiens si jamais il y en a eu. C'est-à-dire que si la vie a pu partir sur Mars, le plus intéressant, ça serait d'aller chercher des grains de carbonate qui pourraient, encore une fois, retracer ça. Donc la réponse à la question, c'est peut-être qu'il y a une atmosphère martienne et peut-être que pour ce qui est de l'eau, il faut la trouver dans le sous-sol, pour les carbonates, faut la trouver, pour le CO2, il faut la trouver dans les carbonates. Reste un problème, je ne vais pas trop débattre, qui est que dans ce cas-là, comment expliquer qu'il n'y ait plus d'azote à la surface de Mars? Et ça, c'est une vraie question, parce qu'on ne connaît pas de mécanisme capable de virer l'azote. Et ça, c'est un vrai problème. La meilleure preuve, c'est que sur Terre, l'azote, 80% de notre atmosphère, c'est de l'azote. Et supposé, on se met dans 1 ou 2 milliards d'années d'ici, c'est-à-dire que la Terre ne sera plus active, tout ça aura disparu, que sera notre atmosphère? Mais il y a toutes les raisons de penser que l'eau va être dans le sous-sol, que le gaz carbonique restera entièrement dans les carbonates, mais que notre atmosphère, il y aura bien sûr plus d'oxygène, puisqu'il n'y aura plus de vie, mais que notre atmosphère, ça sera 0,8 bar de N2, parce qu'on ne connaît aucun mécanisme de masse capable de transformer l'azote en une roche. Il n'y en a que deux hein, pour faire des... Il y a la vie qui fait des nitrates, et il y a les plus acides. Alors on peut évidemment supposer que c'est la vie martienne qui a transformé entièrement l'azote en... On en est loin, parce que même sur Terre, ça n'a pas marché, il n'y a pas eu assez de vaches, alors il en faudrait beaucoup, des vaches martiennes. Et des plus acides, il en faudrait quand même de sales plus acides pour arriver à tout transformer en acide nitrique qui fait des sels. Donc il y a un véritable problème, et c'est pourquoi il y a des gens qui pensent que au moins l'azote est parti par un autre mécanisme, ce que je ne vais pas expliquer là, mais on peut imaginer des mécanismes d'interaction entre essentiellement le vent solaire, le flux qui vient du Soleil et la planète, qui éjecte tout ça. Et la fin de ce que je vais vous dire, c'est que si ce mécanisme a effectivement éjecté l'azote, bah peut-être qu'il s'est passé un moment où il a été capable d'éjecter non seulement l'azote, mais tout le reste, aussi l'eau et le gaz carbonique. Ce qui veut dire à ce moment-là que l'idée selon laquelle il y ait de grosses réserves d'eau souterraine sous forme de glace et de forme de carbonate est peut-être une idée fausse, et peut-être que sur Mars, l'atmosphère a été éjectée très tôt dans son histoire par un tout autre mécanisme, et que c'est illusoire de penser que l'évolution chimique a en particulier pu conduire à la vie sur Mars. Et ça, ça irait dans le sens de renforcer l'idée de l'unicité de la vie sur Terre, en tout cas dans le système solaire et peut-être ailleurs dans l'univers.
Oui. Oui, la personne qui a le micro. Là. Oui, allez-y.
Oui, bonjour monsieur.
Bonjour.
Moi je veux revenir sur le mécanisme dont vous avez parlé au moment de la formation du système solaire.
Oui.
Vous avez dit qu'il y avait donc une étoile bien plus grosse que le Soleil, et que cette étoile donc aurait fait sa vie de manière accélérée, et qu'elle aurait explosé, qu'elle aurait donc inséminé un peu le Soleil en formation. Mais à ce moment-là, donc, il doit y avoir un reste, enfin il doit y avoir un pulsar ou une étoile à neutrons dans le secteur, non?
Tout dépend de ce que vous appelez le secteur. Non seulement dans le secteur, il y a sûrement des pulsars, il y a sûrement un pulsar qui est celui-ci, mais il y en a sûrement plein d'autres. Et au même moment où la Terre s'est formée, il y a plein d'autres Terres qui sont formées pareil, enfin pas la Terre, mais le système solaire. Le problème, c'est que ça s'est passé il y a 4,6 milliards d'années dans une galaxie en mouvement, où tout se promène à des dizaines de kilomètres par seconde. On est convaincu aujourd'hui que, quelque part dans le système, dans notre galaxie, il y a les planètes, pardon, décidément, les étoiles qui sont formées du même nuage d'origine, en même temps que nous, des planètes, des étoiles peut-être de la même taille qui sont toujours vivantes, et il y a peut-être des étoiles plus massives qui ont donné naissance effectivement à ce que vous dites, c'est-à-dire des résidus, des pulsars, qui sont ceux-là. On n'a aucun moyen de savoir aujourd'hui lesquelles parmi les étoiles de la galaxie sont celles-ci. Il y a une dissémination dans toute la galaxie qui fait qu'on ne peut pas le savoir. C'est sûr que ça aiderait, mais pour l'instant, on n'a aucun moyen de savoir quelles sont, parmi les étoiles que vous voyez, elles n'ont aucune raison d'être dans notre environnement proche. Il ne faut pas oublier que notre propre système fait le tour de la galaxie en 200 millions d'années. On l'a déjà fait quand même un grand nombre de fois, plus de 50 fois. On a fait le tour de la. On est passé d'un bras galactique à l'autre. Chaque fois que vous repassez dans un bras galactique, ça se remélange, etc. Donc en fait, on a perdu la mémoire de ça. Bon, ce que vous dites est vrai. Ça existe quelque part, très certainement dans la galaxie. On ne peut pas identifier l'endroit.
Oui, je voudrais revenir. D'abord, merci de cet excellent exposé passionnant que vous nous avez donné.
C'est gentil. Vous pouvez dire qui. Ah oui, d'accord.
Je voudrais poser une question sur les comètes, à savoir, vous avez parlé de ces molécules très spécifiques qui donnaient une couleur noire aux comètes.
Oui.
Donc je voudrais savoir en quoi les conditions dans les comètes ont permis de générer de telles molécules. Est-ce que c'est vraiment spécifique des comètes? Et ma deuxième question, c'est est-ce qu'on a des raisons de penser aujourd'hui que ces molécules qui sont donc arrivées sur Terre ont été précurseuses de la vie ou pas?
Alors, brièvement, d'abord, la réponse à la première question, ça montre que je n'ai pas été super clair. C'est pour ça que je vous remercie de votre premier commentaire, mais... Ce que je disais justement, c'est que vraisemblablement, les mécanismes qui ont donné naissance à ces molécules ne sont pas des mécanismes qui ont opéré depuis que ces molécules sont sur les comètes. C'est peut-être vrai, c'est-à-dire que c'est peut-être depuis qu'elles sont sur les comètes que parce que ces comètes sont promenées dans le système solaire, très lointain, que bombardées par le rayonnement cosmique, tout ça, qu'il y a eu de la chimie. C'est possible, mais ce que je pense en particulier, et ce que pas mal d'autres pensent, c'est que non. Ces molécules sont sous cette forme de molécules relativement évoluées, complexes, depuis le moment où elles se sont piégées dans le noyau cométaire, c'est qu'elles étaient là avant même qu'elles soient agrégées dans le noyau cométaire. Ce sont les molécules qui dominaient partout dans le système solaire, comme molécules organiques de haut poids moléculaire, encore une fois, qui se trouvent être prisonnières dans les noyaux cométaires. C'est pour ça qu'on les retrouve là et qu'on ne les retrouve que là, parce qu'ailleurs, dans les objets plus gros, ils ont été retransformés, ils sont mélangés à tout le reste, on ne peut plus savoir, sur Terre en particulier, quel était le matériau d'origine. Sur les comètes, on a encore accès aux matériaux d'origine, ça nous fait dire ça. Mais donc, encore une fois, ce que l'on pense, c'est que le mécanisme est un mécanisme non pas interne au système solaire depuis qu'il est formé, mais un mécanisme qui était opérant dans le nuage en train de s'effondrer. Alors, d'un mot, que peut-être ce mécanisme, si c'est la question, c'est qu'au moment où ce nuage de gaz et de grains s'effondre, il devient tellement dense qu'il se protège lui-même contre le rayonnement extérieur. Il n'y a plus d'UV, il n'y a plus de rayonnement, tout est stable à l'intérieur. Et à ce moment-là, il y a quand même des sources d'énergie, en particulier le rayonnement cosmique qui arrive, une partie ionisée, et il y a des réactions à l'intérieur du gaz entre des molécules neutres, des molécules ionisées, qui fait qu'il y a beaucoup de réactions possibles. On pense que c'est ça qui a dominé, plus des grains qui sont là-dedans, qui peuvent jouer le rôle de troisième partenaire pour évacuer de l'énergie. Donc ce sont des réactions complexes entre des petits grains, de l'ordre d'un micron, des molécules et des molécules ionisées qui ont pu éventuellement donner croissance à des chaînes polymérisées réfractaires. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles on fait cette mission Rosetta, c'est d'en avoir un peu le cœur net, c'est-à-dire de comprendre quelle est cette chimie. Et une fois qu'on aura accès à cette chimie, on essaiera de comprendre les processus qui ont pu donner naissance. La deuxième question, c'est qu'est-ce qui nous fait penser que ça a pu être... La réponse, c'est rien. Il faut bien voir qu'actuellement, il n'y a aucune expérience de laboratoire qui nous permet vraiment de dire comment on passe de l'organique, aussi évolué soit-il, au vivant. Je ne m'engage pas beaucoup en disant ça. Je pense que sinon, ça se saurait. On ne peut pas reproduire en laboratoire... Et on ne sait pas où actuellement regarder un processus qui permet de fabriquer de la vie à partir du non-vivant. On peut fabriquer les précurseurs des molécules aussi complexes que vous voulez, on ne sait pas comment se fait ce lien. Par exemple, dans les abysses océaniques, vous savez, on trouve maintenant à très grande profondeur des formes de vie, il y a beaucoup de bêtises qui ont été dites, en particulier qu'il y a de la vie qui se forme à partir de la chimie des éruptions volcaniques souterraines, c'est évidemment pas vrai. Il y a de l'énergie, il y a tout ce que vous voulez, mais s'il y a des formes de vie qui apparaissent là, c'est qu'elles étaient déjà formées, on a tous le même ancêtre, il y a 4 milliards d'années sur Terre, elles ont hiberné pendant très longtemps, elles se sont retrouvées à cet endroit dans un environnement qui a permis à la vie de repartir. Mais elle repart à partir d'un mode dormant et non pas à partir d'une fabrication. Donc on ne sait pas actuellement le mécanisme par lequel vous fabriquez une espèce douée d'autoreproduction essentiellement, de duplication. Donc bien sûr, on n'a pas la réponse à la question. On ne sait pas quel est le précurseur qu'il faut. On a simplement une certaine idée, parce qu'on voit ce que sont les protéines, les acides, etc. On a une certaine idée des chaînes moléculaires qui semblent être, en tout cas dans le cadre de la vie que l'on connaît ici, sur une chaîne comme ça. Mais vous savez aussi, bien que moi, qu'il y a des gens qui pensent que ce n'est pas si simple que ça, qu'il n'y a pas d'évolution monotone, simple, qui passe du simple au compliqué. Il y a plein de gens, c'est vraiment un débat. Donc non, on ne peut pas dire que telle molécule va nous permettre de dire, voilà, c'est l'import de cette molécule-là qui a permis. La seule chose que l'on peut dire, c'est que si vous voulez, si on pense malgré tout qu'il y a une certaine complexification croissante, c'est-à-dire que vous passez de petits composés moléculaires à des choses de plus en plus grandes, si tout d'un coup, dans un océan qui était là, vous faites venir des chaînes moléculaires déjà complexes, eh bien, vous gagnez beaucoup de temps dans l'évolution. Vous n'avez plus besoin de refabriquer tout ça. Tout ce que je dis, c'est que vous pouvez, par l'impact des comètes, restituer instantanément dans un océan primitif où il y a la bonne énergie, la bonne et tout ce que vous voulez, des composés moléculaires qui peuvent vous éviter d'avoir à reconstituer tout ça. C'était les chaînes qui avaient été fabriquées avant que le Soleil ne se forme lui-même, dans le nuage d'origine, et l'impact des comètes vous fait gravir cette échelle-là. Bon, mais comment à partir de là vous allez après? Personne n'en sait rien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est simplement ça qui nous fait dire que si ça a pu se passer avant, eh bien, et si c'est nécessaire à cette évolution, alors vous avez peut-être déjà des chaînes, des protéines qui sont importantes là-dedans. Et vous les avez sous la main, ça ne veut pas dire que ça suffise. Encore. Mais vous les avez au moins disponibles dans de l'eau à une bonne température, etc. Bien sûr, si on pouvait montrer que ça fonctionnait comme ça, ça va dans le sens de se dire que, comme les comètes ne sont pas spécifiques de la Terre, et comme l'eau liquide n'est pas non plus spécifique de la Terre, dans tout environnement où il y ait ces ingrédients-là, c'est-à-dire de l'eau liquide et des comètes qui tombent, eh bien vous devriez peut-être trouver une chaîne biologique qui a pu démarrer. Mais encore une fois, il y a beaucoup entre les hypothèses et ça. En particulier, il n'est pas du tout sûr que ces ingrédients soient de loin suffisants. Il faut peut-être ces ingrédients plus d'autres qui, eux, étaient spécifiques à la Terre. Je vous ai parlé, par exemple, tout à l'heure l'importance de la Lune dans le système. Si le fait d'avoir un climat pérenne pendant des dizaines de millions ou des centaines de millions d'années est importante et que la Lune soit responsable de ça, on sait que nulle part ailleurs, ça s'est passé, en tout cas dans le système solaire.
Une dernière question, oui.
Bonjour. Bonjour. Je voudrais poser une question en fait, qui aborde plutôt le côté politique, scientifique politique, puisqu'en fait vous l'abordez comme beaucoup de scientifiques qui... En fait, c'est une question, c'est une arrivée butoir sur la science qui arrive sur c'est un problème politique en fait. Et bon, ça a toujours été, historiquement, c'est toujours le butoir en fait des scientifiques par rapport au passage politique et à la décision politique. En fait, c'est une question sur d'un point de vue, enfin du point de vue scientifique, quelles sont les possibilités et quelles sont les amorces pour que ces questions écologiques au sens large et recherche au sens large se passent en réponse ou en interrogation plus large d'un point de vue politique. C'est-à-dire qu'au lieu d'arriver à un butoir qui est c'est un problème politique, c'est une décision politique qu'on retrouve, que ce soit en génétique aujourd'hui ou en recherche astronomique, en fait, quelles sont pour un scientifique les amorces de ce passage, quoi. Enfin, les réponses.
Bon, je ne suis pas sûr d'être ni d'avoir bien compris la question, ni d'être le plus pertinent pour la réponse, mais je dirais que deux, trois pistes, en tout cas, qui me sont propres et chères. La première réponse, c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'il y a des initiatives, du genre de celle de l'UTLS, qui permettent effectivement à faire en sorte que ce que la science fait tous les jours soit rendu aux mains de ceux pour qui c'est fait, c'est-à-dire l'ensemble des gens. La première chose à faire, c'est vraiment faire en sorte, ce qui n'est pas une mince affaire, faire en sorte qu'effectivement, d'une part, les scientifiques se sentent redevants de rendre des comptes, mais surtout que tout le monde se sent redevant des progrès de la science. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas l'idée que d'un côté, il y a des développements de scientifiques et de techniciens, d'experts, et puis le reste. C'est le plus grand danger qu'on a devant nous actuellement, et c'est aussi un grand danger avec l'astrophysique d'ailleurs, c'est le réflexe d'admiration ou de crainte d'ailleurs, qui sont pour moi les mêmes, mais vous voyez de belles images, et vous dites c'est extraordinaire tout ça, ou au contraire, on a les jetons, mais à aucun moment les gens ne se sentent partie prenante du processus. Je suis absolument convaincu que par rapport aux enjeux qui nous attendent au siècle prochain, il y aura des décisions importantes à prendre, peut-être des moratoires sur le développement, des choses comme ça, et ces décisions ne peuvent être que des décisions comprises et acceptées réellement par tout le monde. Une décision, à mon avis, vu l'enjeu, les enjeux qui sont là, qui ne sera prise que sur la base d'une réflexion d'experts, sera nécessairement une mauvaise décision, quelle qu'elle soit. Donc je dirais que par rapport aux enjeux, la première chose à faire est faire en sorte que ce réflexe de l'expertise soit abandonné. C'est une responsabilité des scientifiques, mais c'est une responsabilité globale. Donc il faut qu'il y ait des institutions comme celle-ci qui fabriquent ce genre de choses, mais il faut aussi que les gens se sentent partie prenante du processus et arrêtent de dire « tiens, c'est extraordinaire ». Bon, il faut effectivement donner... Par exemple, le problème de la sortie du nucléaire, par exemple, dans 15 ans, c'est pas une petite affaire. C'est une affaire qui peut conditionner beaucoup de choses. Et je parle aussi bien, d'ailleurs, du nucléaire militaire que du nucléaire civil, et peut-être plus du nucléaire militaire que du civil. Alors ça, bien sûr, ça dépend énormément des pays. C'est un enjeu majeur actuellement de savoir si oui ou non, comment on va en sortir. Est-ce qu'on peut ou pas en sortir? J'ai ma propre réponse là-dessus, mais en tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'au niveau du nucléaire militaire, je suis convaincu que si on n'en sort pas, quels que soient les aspects politiques, si on n'en sort pas, on peut assez facilement démontrer que si on ne supprime pas les arsenaux, le risque de déflagration d'un conflit nucléaire, non seulement majeur, mais définitif, au sens où, par inadvertance, devient égal à 1. Cette probabilité devient égal à 1. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas empêcher, vu les systèmes mis en place pour pour détecter ne serait-ce qu'un missile opposé, la probabilité pour ces systèmes de se déclencher automatiquement par inadvertance, parce qu'un mauvais pulse dans un système infrarouge aurait été mal interprété, devient égale à 1 sur une échelle de temps qui peut être 10, 15, 20 ans, ça on peut en débattre, mais sur une échelle de temps très inférieure au siècle, c'est sûr. C'était d'ailleurs ça qui était à la base de l'opposition d'une majorité de physiciens américains au moment où Reagan, en 1984, avait lancé le fameux plan IDS qu'on a appelé Guerre des étoiles, et qui d'ailleurs, si vous avez vu dans la presse de ces derniers jours, est en train de repartir. Il y a à nouveau une pétition américaine très intéressante dans ce sens-là. Donc je dirais que c'est la première chose, faire en sorte qu'il y ait une prise de conscience majeure qui dise aux gens, attention, il y a des décisions à prendre, mais ça, ça suppose qu'on sache ce que ça veut dire, qu'on n'est pas ce qu'on a senti en particulier sur la radioactivité, il y a la bonne et la mauvaise, il y a la naturelle et l'artificielle, bon, ce genre de choses. Donc ça passe par un long apprentissage, par tout un tas de choses. Donc la première réponse, c'est ça, faire en sorte que les scientifiques sortent de là, faire en sorte que les programmes d'éducation se modifient, mais avec cette idée qu'on devra passer par des décisions que chacun devra endosser à un moment donné, et que si on doit prendre une décision qu'un minimum seulement un nombre d'experts peut endosser, ça sera forcément une mauvaise décision. Et que tant qu'on n'aura pas cette capacité-là, il ne faudra pas faire quelque chose. On pourrait élaborer plus, mais...
Merci.